Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast What the Duck, un podcast du mois d'octobre, enfin fin octobre, qui arrive un peu tard, mais qui arrive quand même. Alors autour de moi, la petite troupe, comme toujours, avec Gros,
ouais.
Patoun,
salut.
Red,
eh oui, c'est moi.
Sébastopol,
toujours présent,
et JP,
bonjour à tous.
Naforme.
Oui, bien sûr,
un
toujours
peu,
là.
Un peu dur le réveil.
Oui, là, 7h du matin, c'est chaud quand même.
Podcast à 7h du matin.
C'est dur. Ouais.
Red, tu te réveilles.
C'est parti pour le sommaire. Aujourd'hui dans le podcast What the Duck, donc pas de quiz ce mois-ci, JP a fait la feignasse,
total.
Mais plein de choses, des jeux à foison avec de la peur, de la stratégie, plein de choses. Notre nouvelle rubrique, les battles, et d'autres surprises, mais tout de suite, vous attendez ce moment avec impatience, ce sont bien sûr les news de Patoun.
Cloud Imperium Games nous en a mis plein les yeux avec l'annonce du casting de Squadron 42, la campagne solo de Star Citizen. Gary Oldman, Gillian Anderson, Andy Serkis et Mark Strong sont les représentants les plus illustres de ce casting. On espère simplement que le scénario sera à la hauteur. 2 032 434 dollars, c'est la somme que la campagne Kickstarter de Larian Studio a levée pour le développement de la suite de son excellent RPG old school, Divinity Original Sin. Et pour faire dans l'originalité, cette suite s'appellera Divinity Original Sin 2.
Super, ça fait rêver.
Mais cela reste un petit score comparé à ce que Jordan Maron, alias Captain Sparkles, a gagné avec ses vidéos de Minecraft. En effet, ce dernier s'est payé une maison à 4,5 millions de dollars sur les collines d'Hollywood, pas très loin de celle que s'était payé Notch, le créateur du jeu. Pour information, sa chaîne YouTube compte près de 9 millions d'abonnés pour près de 2 milliards de vues.
C'est comme nous en fait.
Enfin, on conclut ces news avec la Paris Games Week et la conférence de Sony qui nous en a mis plein la gueule. En effet, la firme japonaise a sorti le grand jeu pour cette première expérience parisienne avec une myriade d'annonces. Détroit, Gran Turismo Sport, Wild et j'en passe. Il y en a eu pour tout le monde.
Eh ben, par contre, je veux bien savoir comment il fait pour ramasser autant de vues avec son Minecraft.
Ouais, je sais pas.
Oh, c'est moche en plus.
Qui me dépasse, Minecraft. Ouais,
moi aussi, c'est bien Minecraft, mais
oh, c'est moche.
Qu'est-ce qu'il montre? Il fait quoi?
C'est les let's play, ça te permet souvent, c'est pour expliquer certains concepts, mais je crois que aussi des modes aventure, etc. Enfin, les gens regardent quoi.
Oui, mais le Minecraft aventure là qui est sorti là.
Il est sorti il y a combien de temps? Il est sorti il y a quoi?
Le jeu ça fait très longtemps.
Non, mais le mode aventure.
Ça fait pas longtemps.
Il y a un mois.
Voilà, avant.
Oui, mais c'est pas sur le mode aventure qu'il fait, ça se trouve, c'est juste. Il construit des choses.
Il y a énormément de modes aussi pour faire des modes survival, etc.
Survival.
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 C'est comme ça dans le texte. Oui. Je pense qu'Alex, on a un filon, il faut qu'on s'y remette.
Non,
Oui.
Non, le plus important, c'est à Paris Games Week avec la conférence Sony. Maintenant, on attend pour l'année prochaine Microsoft et Nintendo.
Allez, qu'est-ce qui s'est passé à la conférence
Sony?
C'était qui le second que tu as cité déjà?
Microsoft. Non. Ouais, je connais pas. Oui, non plus. Je connais pas non plus.
Ouais. Elle était bien la conférence Sony ou?
Ouais, elle était pas mal. Elle était pas mal.
Non, très peu. C'était, il y avait que du jeu.
Il y a eu des annonces.
C'est vrai.
Est-ce qu'il y a des annonces de jeux qui vont sortir ou est-ce que c'est que des annonces de jeux qui font rêver qui sortiront peut-être dans 2-3 ans?
Non,
tous les
trois.
Jeux qu'on a vu là, ils vont sortir
l'année Turismo prochaine.
Sport, par exemple, il va être en bêta dès l'année prochaine.
Ouais, il va sortir sous peu quoi.
Après
vraiment,
la sortie,
vraiment,
c'est une nouvelle console, donc le jeu final, on ne sait pas quand est-ce qu'on verra.
C'est une nouvelle console. On parle de la PS4 qui est sortie il y a 2 ans.
D'accord, la nouvelle console, la PS4.
Oui. D'accord. Quoi?
Bah, elle est sortie il y a 2 ans quand même.
Oui.
Il y a des consoles qui ont vécu 3 ans, hein, la Wii U.
Mais là, elle est partie 2011.
La PS4, elle ne va pas vivre 3 ans.
Je pense que l'excuse de la nouvelle console.
Attends, tu penses qu'elle va durer combien de temps la PS4 toi?
Il y a une nouvelle version.
On est sur un cycle de vie équivalent à la PS3. Je pense que ça va durer 7-8 ans.
Ouais, à mon avis, elle va être mise à jour. Moi, je la vois bien être mise à jour l'arrivée du casque.
Ouais, PS4 Plus.
Elle a une architecture évolutive.
Oui, non, avec la VR.
Donc, à partir de là,
est-ce que vous avez vu, il y a eu un buzz sur des infos qui ont fuité de Sony sur la prochaine génération de consoles. C'est loin, hein, c'est des projets de prototypes, etc. Où ils expliquaient que la prochaine PlayStation s'appellerait la PlayStation tout court et serait une console reliée à des serveurs finalement complètement évolutive et qu'il n'y en aura plus après parce qu'elle sera mise à jour graphiquement, enfin vraiment vraiment là.
Ça, c'était de l'imagination totale.
Oui. Moi, j'avais lu cet article-là, mais c'était juste une projection.
J'y crois pas du tout, moi.
C'est trop tôt. Il y a pas longtemps, je me demande, c'est pas Phil Spencer de chez Xbox qui avait mentionné le fait que la prochaine génération, finalement, que la Xbox One serait peut-être pas la dernière console physique. En ce moment, tout le monde est en train de placer ses pions et tout le monde est en train de se regarder un petit peu. Je pense que le premier qui va tirer, ça va être Nintendo. Déjà, ça va mettre les idées au clair de pas mal de gens.
Est-ce qu'ils vont
avec la NX
l'année prochaine?
Je pense que voilà, on va voir ce qui se passe. Le prochain E3 risque d'être un peu bouillant à ce niveau-là. Mais pour l'instant, c'est trop tôt pour savoir si on aura une autre PS4. On est dans une belle digression quand même. On est parti on arrive à la NX.
Je reviens sur.
Pour revenir à ce que tu disais sur la prochaine génération de console, pour moi, on se dirige vers ça. Après, pour moi, c'est pas pour tout.
D'accord. Maintenant, Sony est au courant. D'accord.
Voilà.
Et pour revenir plus terre à terre sur ce que tu disais sur les actus, c'est pas un effet de manche, un effet d'annonce. Star Citizen, encore une fois. C'est-à-dire, est-ce qu'on voit vraiment des vraies infos du jeu ou est-ce qu'il vient juste présenter une star une par une?
Le casting,
pour essayer de faire oublier les 90 millions de développements.
Le casting a été annoncé lors d'un événement qui s'appelle, je crois, la Star Citizen Con. Un truc.
Ah oui, le mec.
En français, ça marche rien.
Ouais. Bah, en fait, c'est un événement dédié à Star Citizen et il y avait plein d'autres annonces à côté. Le casting, c'est le truc le plus ouf qu'on ait vu. Enfin, c'est un casting de ouf pour un jeu vidéo.
Ouais, on a l'impression que c'est surtout un gamin qui a craqué son budget, quoi.
C'est clair.
Enfin, je veux dire, Mark Hamill, il a une filiation avec la série. C'est pas le problème. Ça me fait plaisir. En plus, c'est un super doubleur. Ça me fait plaisir qu'il soit là. Mais quand je vois quand même, quand tu regardes le casting qu'ils ont et quand tu le mets en rapport avec le Kickstarter qu'ils ont et au fait qu'on a toujours pas véritablement
de
visibilité sur quel est le.
Avant de
je termine
solo.
Pas alors. T'as.
Mais, tu l'as compris alors là.
Ils développent tout de front. Après, je suis pas le développement de très près, donc je suis pas exactement au courant de là où ils en sont. Après, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites. Notamment sur du hardware qui est développé aussi en collaboration avec Screwmaster ou Cytec, je sais plus, enfin, je crois que c'est la même boîte, pour sortir un joystick dédié Star Citizen. Ce genre de petites choses là. Et les autres, je m'en souviens plus, enfin, il y avait pas mal d'annonces, quoi. Ils ont fait 3 jours et une conférence de 2 heures. Ils n'ont pas fait, donc il y avait de la matière.
Mais ce que je veux te dire, Eric, et là je te pose la question, comme ça tu te sentiras concerné. Ce qu'on voit quand ils utilisent autant d'argent pour arriver à un tel casting, bien sûr ça fait plaisir, mais on est bien au-delà du fan service. Moi je me suis pas dit, waouh, ils ont envie d'inviter 20 têtes d'affiches et tout pour que les fans et les gens qui est backé soient dingues. Je me suis dit juste, ok, le game designer du jeu, j'ai oublié son nom là.
Chris Roberts.
Merci. Il a juste envie de se faire méga plaisir et d'être pris au sérieux, donc je trouvais que c'était un peu du gâchis d'argent. Franchement, ils auraient mis 3 ou 4 noms, ça aurait suffi. Là, c'est un peu.
Je suis pas sûr qu'ils les payent si cher que ça.
C'est pas le problème. En tout cas, Star Citizen, tout le monde est d'accord. Ce dont on a envie de voir, c'est pas un casting fantastique. Ouais. C'est le jeu qu'on nous a promis.
Ça reste une nébuleuse.
C'est ça l'objectif.
Peut-être que le mec fait une conférence quand même. Le mec fait une. Il y a un salon dédié à son jeu. Peut-être qu'il essaye d'en faire plus qu'un simple jeu vidéo. C'est une communauté avec du transmédia, avec un mode solo, un mode multi. Il va nous sortir des comics sur Star Citizen. J'ai l'impression qu'il a la tête, enfin les yeux un petit peu plus gros que le ventre, quoi.
Il faudrait lister les jeux qui nous ont fait baver pendant des années et qui ont réussi à tenir leurs promesses au final. C'est, à mon avis, ils tiennent sur pas beaucoup de doigts d'elle-même.
Ouais.
Mais après, bon, voilà, l'espoir fait vivre.
Après, celui-là, il a été annoncé quand? En 2012.
Oui, ouais, ça a juste 3 ans, hein.
Il faut le temps de construire.
Après, il y a quand même Elite qui est sorti avant. Donc peut-être Elite, qu'en voyant Elite.
Elite, ses ambitions, elles étaient nettement moindres.
Oui.
Parce que Elite, là, on reste dans le vaisseau et on pourra atterrir sur les planètes à la fin de l'année. Voilà, et il n'y aura rien de FPS, il n'y aura rien
de. Ça tombe bien, à la fin de l'année, on aura peut-être pu arriver à se retrouver dans l'espace. C'est bien.
Non, très clairement, ils ont aussi fait des démos de live gameplay où on voit le. On voit tout en fait, du FPS, du vol.
Mais après, c'est que
des impacts sur les vaisseaux, parce qu'ils ont montré leur système de destruction aussi. Bon,
Il y a plein de petites choses comme ça qui ont été montrées dans le jeu progresse très clairement.
Ouais, mais ils ont prévu ça pour quand? 2018.
Dernière nouvelle, la bêta de l'univers persistant devrait sortir l'année prochaine.
Ah, c'est intérêt à envoyer du pâté.
Devrait. Une date.
Devrait et la bêta.
Devrait, c'est prévu. C'est
conditionnel.
C'est intérêt à envoyer du lourd. Ok. Et eh ben on passe tout de suite.
Ouais, tout petit truc avant que tu termines. Non, je voulais revenir en deux secondes sur la news sur Divinity Original Sin. Ça me fait vraiment. T'as bien parlé de ça?
Oui, oui.
Oh, oui.
Il y a eu un doute dans son regard.
C'était le mois dernier.
Non, ça me fait juste super plaisir pour eux parce que c'est un studio dont la démarche est véritablement exemplaire au niveau de l'ouverture, de la façon dont ils accueillent les journalistes, de la façon dont ils sont reliés à leur communauté. C'est vraiment des mecs qui sont ultra cool, qui cachent rien, qui sont à l'écoute. Et donc, ça me fait super plaisir. Leur premier jeu était génial. Je pense que le deuxième peut être encore meilleur. Donc, good luck.
Et juste pour précision, le chiffre que j'ai donné, il date du 31 octobre.
Waouh!
Voilà.
Sachant qu'on est le 1er.
Le 1er, voilà.
Oui, ils ont atteint leurs objectifs, je crois, en 15 jours.
Ok, et bien on passe tout de suite à notre rubrique les battles. Are you ready? Let's get ready to rumble! Alors, pour ce premier battle, c'est Red qui nous a choisi le thème.
Ouais.
Allez. Vas-y.
Ben, je voulais revenir sur l'acquisition d'un certain nombre de parts d'Ubisoft par Bolloré Enterprise Incorporated Registered.
Je n'étais même pas au courant.
Et t'étais pas au courant.
Non.
Donc voilà, très vite, si tu veux en parler, Seb, vas-y.
Non, c'est qu'il y a une semaine, sans rien dire à personne, des actions ont été achetées par c'est le groupe Bolloré, c'est ça ?
C'est Vincent. Hein.
Ouais, exactement, pour carrément reprendre le contrôle en fait d'Ubisoft complètement.
D'accord.
Donc, ça s'est fait en trois étapes.
Ça s'est fait en trois étapes.
Et pour l'instant, ils ont déjà.
Attendez.
Le choix,
reprendre
le
contrôle d'Ubisoft.
Non, pas reprendre. Contrôler maintenant par eux. Non, il y a pas recontrôler.
Attends. On va tempérer les propos.
Non, alors attends,
on va calmer,
ok. C'est pas encore battle. Le débat, voilà. C'est moi qui lance le sujet. Donc très vite, et justement, vous allez, parce que le battle, c'est toi et Seb qui allez.
Oh bah.
Alors c'est pas la peine de lancer le truc avant. Moi ma question, elle est simple. Effectivement, il y a une prise d'action de Bolloré qui mène à une position majoritaire maintenant de Bolloré sur.
Pas majoritaire.
Majoritaire au niveau des actions, mais les frères Guillemot ont encore le pouvoir, puisque en tant que fondateur, ils ont une culbute, ils ont le double.
C'est le plus gros actionnaire.
Non.
Qui, non,
Bolloré,
ouais.
Bolloré, oui.
Oui, Bolloré est le plus gros actionnaire, mais c'est pas pour ça qu'il a encore pris le contrôle exactement. Mais non, vu comment il est vorace et vu comment ça va, là, c'est très clair, c'est exactement
ça dépend
ce qu'il
veut. Des alliés, des alliances. Oui.
Ma question, elle est très simple. Est-ce que Ubisoft va-t-il devoir se... Ah oui, c'est la guerre. c'est pas battle pour rien. Est-ce que Ubisoft va devoir se passer des membres fondateurs, c'est-à-dire des frères Guillemot, à plus ou moins long terme, à votre avis, Seb? Tu vas dire oui, et quelles en seront les conséquences?
Ah, donc
et toi, Patoun, tu vas dire non, c'est-à-dire qu'ils vont rester, et tu vas en dire quelles seront les conséquences.
Aha.
Alors pour moi, ça serait...
Qui commence?
Ça veut dire, toi, tu prends l'hypothèse que Yves Guillemot va devoir démissionner, va
d'accord.
se faire kicked out by Bolloré. Est-ce que ça va avoir comme conséquence sur l'entreprise? Et toi, tu vas nous faire le contraire. Non, genre, ils vont se battre, ils vont s'allier avec qui tu veux.
Non, mais c'est très dur c'est dur parce qu'on pense pas des fois.
Parce que tu veux qu'on fasse des battles faciles, toi.
Ouais, moi, non, des trucs faciles. Non,
c'est bien Nintendo dans ton genre.
Attends, le hardcore gamer. Alors, non, Nintendo, c'est hardcore.
Qui commence?
C'est pour faire partir, c'est ça hein,
commence par Patoun parce que
il va partir et qu'est-ce qui va se passer?
Je le pense pas.
Bon, Patoun va commencer.
Oh, j'aurais pu. Bon.
T'es prêt, Patoun?
Oh là là, attends.
Ouais, parce qu'il faut.
Allez, vas-y, Seb, c'est
allez.
Parti.
Bon, Seb.
Ah, c'est pour moi.
3, 2, c'est parti.
Alors, pour moi, oui, ils vont partir parce que depuis la semaine dernière, ils commencent à avoir des petites frictions entre eux. Ça avait déjà commencé dans un premier temps, dès que les premiers pourcentages en fait, d'actions qui ont été pris par Bolloré, ça commençait mal. Il y a eu des petits articles en fait sur tous les sites jeux vidéo en disant que c'était impossible qu'Ubisoft était familial et qu'il devait pas rentrer en fait dans un site comme
il
ça.
Quoi,
il y avait une indépendance. Moi je pense qu'ils vont partir alors complètement.
Qu'est-ce qui va se passer quand ils seront partis?
Ils vont peut-être changer les jeux. Peut-être les jeux sont pas annualisés. Les jeux peut-être que c'est pas, ou alors c'est pas leur genre de jeu en fait, tout simplement. Ils ont envie peut-être d'aller plus sur le mobile.
Ah oui. 40 secondes, c'est court.
J'ai pas pu développer. Hein.
Non, t'as pas pu développer.
Il y a un train qui passe.
On verra après. Patoun?
Mais je pense pas tellement.
Allez, c'est parti, Patoun. Patoun, il parade déjà.
Ben, non, pour moi, ils vont rester. Parce que c'est vrai que Bouygues a essayé de faire une OP. Comment on appelle ça? Une OP hostile.
OP hostile.
Et voilà, ils ont pris.
Bouygues ou Bolloré?
Ben, Bolloré.
Bolloré.
C'est le même groupe.
Il me semble que c'est le même groupe.
Ok, j'ai rien dit. Je suis pas sûr, mais c'est pas grave. On coupera au montage.
Ok. Ouais. Mais ils ont pris quoi, 10,9% des parts. Mm-hmm. Ça va quoi. Ils ont encore du boulot avant d'avoir le contrôle et de pouvoir virer les guillemots. Non, pour moi, Bouygues va prendre des parts, ils vont prendre des voix, ils vont peut-être faire des suggestions, mais ça s'arrêtera là, quoi, très clairement. Ils vont prendre une part des bénéfices, c'est tout.
D'accord.
Désolé, c'était mauvais.
Ça mérite bien 3 minutes pour chacun, en fait.
C'est compliqué, on peut pas spécialement développer.
C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on peut pas.
Je clarifie de se prononcer. On est quand même sur le groupe Vivendi qui rachète des parts du Belgique.
Vivendi,
ouais, c'est pas
Bouygues.
Vivendi qui a revendu plutôt avec succès, qui a revendu l'indépendance de Blizzard, je crois, et de.
Activision.
Et de Activision,
oui, c'est
aussi.
Vrai,
donc
parce
ils sont
qu'il y a...
plus dans le jeu vidéo et peut-être que ça les intéresse de refaire la même opération avec un autre groupe de jeux vidéo.
Non, mais moi, de façon claire, Bolloré, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est Ubisoft, les employés d'Ubisoft et les créations d'Ubisoft, c'est-à-dire ce qui va advenir sur les jeux. Là, le risque, c'est si Bolloré se montre trop agressif, s'il dégage les frères Guillemot parce qu'il pourra peut-être en avoir le droit bientôt. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Est-ce qu'on va perdre, nous, en tant que joueurs, parce que c'est ça qui m'intéresse, des licences? Est-ce qu'on va perdre des créateurs? Est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir se casser et pas rentrer dans la holding qui a l'air de se dessiner, ou au contraire, est-ce que Bolloré va trouver une manière beaucoup plus diplomate préserver les frères Guillemot, de préserver la création, etc.
Arrête, pour ce qui est des créateurs qui quittent Ubisoft, j'ai l'impression que c'est déjà en train de se produire depuis avant Bolloré.
De qui tu parles par exemple?
Du personnel d'Ubisoft, j'attends beaucoup d'histoires. On a déjà vu Patrice Desilets il y a quelques années.
Il y a eu Desilets, il y a eu Jed Raymond aussi qui a bougé.
Jed Raymond qui s'est barré.
Qui n'est pas véritablement game designer, mais
en fait, elle a monté
elle
prod, Ubisoft Montréal.
Ouais, 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 bien sûr.
Rien,
ouais.
Hein.
Bien sûr.
Après, d'après ce que je dis,
il y a Michel Ancel aussi qui est un petit peu. Bon, il n'est pas parti.
Non, il n'est pas parti les deux.
Mais en tout cas, il prend un peu d'air à côté.
C'est un signe.
Il prend ses distances, ouais.
Après, dans ce que j'ai pu lire, c'est qu'ils ont aussi pris des parts de Gameloft.
Oui, mais c'est normal.
Principalement
les deux.
Non, mais c'est principalement du mobile.
Oui, c'est donc ça. C'est la partie mobile.
En ce moment, Bolloré, en fait, il est en train de racheter à droite à gauche. Il rachète. Il a pris le contrôle de Canal Plus complètement.
Oui, c'est vrai.
C'est lui qui décide. Il a acheté quelques maisons de prod, Banijay notamment, enfin qui produisent à droite tout va. Il est en train de grappiller.
Mais en fait, il y a une phrase qui est intéressante. Après, on verra. Hein, qui vivra verra. Et moi, déjà, on peut que condamner juste la méthode.
La méthode
employée, qui a été d'ailleurs ultra décriée par les frères Guillemot. Nous, en tant que gamers, on peut que se ranger du côté des gens qui font des jeux et pas des gens qui font des OPA déguisés. Et puis, comme tu dis, je sais pas, les termes que t'as employés, t'as dit sur Canal+, il a fait quoi?
C'est lui, en fait, il a pris le contrôle de Canal+.
Oui, c'est ça. Il a pris le contrôle.
Ce qui est marrant,
et là, je ris jaune. Mais c'est de voir pour quel résultat. C'est-à-dire, il a pris le contrôle. Non. Les gens qui ont le contrôle, c'est les gens qui regardent les œuvres. Nous, on a le contrôle parce qu'on achète des jeux. Si demain les jeux sont pourris, on arrêtera d'acheter des jeux Ubisoft.
Télé, la donne a changé. C'est plus le téléspectateur qui est roi maintenant.
Certes, mais
c'est
là,
uniquement le publicitaire.
D'accord, mais là, pour l'instant, la grille de Bolloré sur Canal, elle se fait défoncer.
Ah oui. Mais c'est parce que c'est des mauvais choix.
Il prend le contrôle, mais il perd des spectateurs. Et s'il perd des spectateurs, il perd son investissement.
À vouloir faire plaisir aux publicitaires.
Nous, tout ce qu'on veut, c'est pas Bolloré. C'est des bons jeux.
Dans le jeu vidéo, les années Vivendi chez Activision et Blizzard, je pense pas qu'elles aient été très créatives en termes de jeux vidéo. Ça a été très rentable.
Activision avait perdu sa créativité bien avant Vivendi.
Ouais, enfin World of Warcraft et Blizzard, je pense que ça leur a mis un petit coup dans l'aile le fait d'être géré un petit peu, d'avoir un pôle d'investisseurs qui regarde un petit peu ce qu'ils font. Ça n'a pas été les années les plus
fast créativement, non.
Mais au final, on répond pas à la question du battle. Est-ce qu'il doit se barrer ou pas?
Guillemot, non, il reste.
D'un point de vue gamer, nous, on a vraiment envie
mais
qu'il reste.
Mais est-ce qu'il pourrait pas partir et remonter notre boîte?
Ça pourrait. Dans l'avenir, ça se pourrait.
C'est une boîte historique, hein. Je sais pas de quoi.
Oui,
mais
il pourrait lâcher l'affaire. Le mec, il a un nom, il a des contacts, il peut.
Non, il y a 10 studios Ubisoft à travers le monde, je crois.
Oui, mais
c'est pas le problème. Ubisoft, je crois, la troisième éditeur au monde. Tu montes pas une boîte comme ça.
C'est pas un studio de développement indépendant.
Ah, bon, on a des couilles, on en a pas.
Si Yves Guillemot décidait de se barrer pour monter son truc.
Il part pas tout seul, hein.
Il part pas tout seul, tout le monde.
Il y aurait beaucoup de monde pour le suivre.
Moi, le premier, je suis.
Il repartirait pas de zéro,
ouais. Je sais pas, en tout cas.
Pour revenir sur ce qu'a dit Red,
ce serait dur pour lui de reprendre à zéro. Mais ce serait loin d'être.
Ce se mettre des banquiers sur le dos, des investisseurs, si. Trouver des investisseurs à 55 ans.
Si, si, il peut le faire. Moi, je pense qu'il peut le faire.
Si Vince sépare d'Ubisoft.
Patoon, juste pour revenir à ce que disait Red, c'est.
Ça fait une bonne mise de départ quand même.
Créer des studios de motion capture, etc.
Patoon, juste pour revenir à ce que disait Red, c'est la façon dont ça a été. C'est la procédure, en fait, de rentrer.
C'est une procédure classique, mais qui n'est pas habituée au monde du jeu.
Oui, mais le problème, c'est que la plupart du temps, on voit ça, en moyenne, c'est que quand il y a une OPA hostile, ça fait partir les créatifs et la boîte s'effondre.
Oui, parce qu'ils perdent le contrôle.
Donc, le problème, c'est qu'ils auraient pu faire la même chose, entre guillemets, je ne sais pas, hein, je ne peux pas deviner.
En envoyant un bouquet de fleurs.
Non, en faisant ça plus tranquillement.
Non,
je crois que ça même
pas. Tu vas dire qu'ils auraient pu prendre de la vaseline, c'est ça?
Il n'y a pas eu de négo.
Oui, bien vu.
Je crois que Guillemot avait dit débarquer dans une société en fracassant la porte, c'est des manières d'un autre temps. Et voilà, tout est dit, quoi. Qu'ils aient le droit de le faire et que ça soit courant dans le milieu des finances et des affaires, ça ne veut pas dire que c'est louable et que c'est bien.
Voilà, c'est ça.
Donc, du coup, pour ce petit battle, qui gagne? Parce qu'on ne sait pas trop.
Bah, c'est moi, évidemment.
Moi, je dirais ex-aequo perdant.
Les deux ont perdu.
Toujours dans le pessimisme, dans le noir. Non, on a tous les deux gagné. Voilà, c'est tout.
Vous avez tous les deux lutté surtout.
Ah, c'était pas facile.
On a lutté. Ça.
Ah, en 40 secondes, c'était un peu trop court.
Moi, je vais revenir sur Vermintide qui vient de sortir.
Alors, c'est Warhammer.
Warhammer, Vermintide. Alors, Warhammer se relance avec pas mal de petits jeux vidéo. Il y a Total War Warhammer qui va paraître. Et Gros va sûrement se jeter dessus du corps et âme. Et Vermintide, c'est une sorte de Left 4 Dead dans un univers. Alors on parle de Warhammer et pas Warhammer 40 000, hein, donc c'est moyenâgeux. Et c'est l'univers des Skaven, c'est des sortes de villes un petit peu. On a l'impression d'être dans le Prague du Moyen Âge, avec des villes qui sont une sorte de. Il y a une sorte de peste et il y a énormément. Les humains sont reclus et vivent entourés d'hommes rats. Qui essaye de les combattre, et donc c'est une sorte de Left 4 Dead comme ça, un petit peu au corps à corps, où on traverse des niveaux qui ne sont pas aléatoires, c'est des niveaux bien définis avec des objectifs. On joue à 4, chacun a une classe de personnage parmi 5 ou 6 classes, et il y a vraiment une gestion du groupe avec des DPS, des tanks qui peuvent prendre l'aggro, qui peuvent générer de l'aggro sur les vagues de mobs. Il y a quelques, comme dans Left 4 Dead, on a plein de rats, des Skaven, des hommes de base. Et il y a aussi quelques personnages un petit peu qui ont des capacités spéciales. On retrouve le tank de Left 4 Dead. On retrouve celui qui grappine, hein, avec sa lance et qui vous éloigne à un membre du groupe, du reste du groupe. L'objectif étant de réussir le niveau le plus proprement possible. Et après, contrairement à Left 4 Dead, vous avez comme ça, donc il y a beaucoup de coopération. Nous, on y a joué sur TeamSpeak. Le jeu fait quand même 19 gigas au téléchargement. C'est un gros morceau. On y a joué sur TeamSpeak.
Qu'est-ce que c'est 19 gigas aujourd'hui, hein, c'est plus rien.
Bah, c'est une journée de téléchargement. Quand même.
Ah, faut passer à la fibre.
Un peu long.
Voilà. Ouais, à la fibre, tu passes à quoi?
Oh, deux secondes.
On a un pote qui avait la fibre et qui l'a téléchargé en 1 heure.
19 gigs, ouais. Tu vas plus vite.
Voilà. Et la surprise par rapport à Left 4 Dead, c'est que là, vous avez à la fin des loots random pour pouvoir améliorer votre équipement. Vous pouvez rajouter des gemmes, vous pouvez fusionner des produits pour en avoir d'autres. Donc, il y a une petite notion de Diablo-like pour pouvoir progresser dans le jeu et refaire des runs de plus en plus propres.
J'adore les news de GP. Il y a toujours Diablo, Warcraft.
Oui, c'est toujours les mêmes.
Moi, je suis un peu Left 4 Dead. Là, t'as pris Left 4 Dead en exemple. On est d'accord que le dernier jeu des gars qui ont fait Left 4 Dead, c'était bien Evolve.
Ouais. Oui.
D'accord. Et on sait que c'était, on en a parlé ici, c'était vachement bien. Donc, toi, t'es encore de l'espoir sur ce genre de trucs.
C'est pas les développeurs de Left 4 Dead. Hein.
Non, bah attention, hein. C'est attention. Maintenant, on dit l'inverse. Tu sais, on dit, attention, c'est pas les développeurs d'Evolve. Hein.
Ça n'a pas marché.
Non, mais je rigole. Mais tu le sens bien. Ce titre-là, tu le sens bien.
Après, on est 4.
Il faut juste voir comment ça évolue. Moi, j'en parlais à gros tout à l'heure. C'est si jamais je décide à le prendre et à vous rejoindre, c'est que vous allez être d'un level suffisant et que moi, au final, vous allez me farmer les niveaux. Donc, aucun intérêt.
Au début, mais le jeu est vraiment très rapidement très très dur et t'arrives rapidement.
Le prologue, on a mis 5 fois à le passer. Hein.
Au cas où vous rendez pas compte, c'est la team what the doc là qui s'exprime.
Alors, nous on est mis de côté.
Il y a un mode de difficulté normal et après t'as des modes de difficulté supérieure. T'en as 3 autres et à chaque fois, si tu réussis le niveau dans un mode de difficulté supérieure, tu peux avoir plus de loot, etc.
Ok. Bon allez, on passe à nos chroniques. Première chronique de ce mois-ci, c'est Gros qui va nous parler de Sins of Salar Empire Rebellion.
Tu veux dire que Gros est là?
Oui, Gros est là. Oui, il nous écoute depuis tout à l'heure.
Il écoute attentivement et note toutes vos bêtises.
Les questions nombreuses.
Alors,
il y a beaucoup de travail. Alors, c'est donc Sins of Solar Empire Rebellion, sorti en 2012. C'est un jeu qui est développé par Ironclad. Alors, ne cherchez pas, c'est un studio canadien qui a démarré en 2003. C'est son seul jeu. Voilà. Et édité par Stardock Corporation, qui, il faut le savoir, existe depuis 1991, mais jusqu'au début des années 2000, s'attachait seulement à faire des petits logiciels de personnalisation graphique pour Windows.
Et dis donc, et en même temps il s'appelle Stardock, on peut pas l'en vouloir, c'est des cousins.
Voilà, ils se sont mis au jeu vidéo en 2000 et on leur doit entre autres Galactic Civilization.
Et il y en a eu plusieurs.
Entre 2003 et 2008, ouais. Il y a eu plusieurs, jusqu'aux deux avec beaucoup d'add-ons. Alors, Sins of Solar Empire, c'est un RTS 4X. Et j'insiste sur le RTS comparé à tous ces petits copains à côté qui sont au tour par tour.
Tu peux expliquer
et le 4X
un peu
aussi déjà.
Je vais vous expliquer, c'est prévu.
Tu sais pas c'est 4X ?
Non, ça me vient, c'est quoi ?
Oh là là.
Alors, c'est quoi le 4X ?
Donc là,
et j'ai même une petite anecdote là-dessus.
Bah oui, ça je comprends pas.
Alors un 4X, c'est un jeu de stratégie en général spatial, on va dire.
Tu pourrais commencer par définir les X.
J'y viens.
On va le laisser parler.
On n'a pas envie qu'il parle.
Dans ses lignes générales, c'est un jeu de stratégie, souvent spatial, qui vous donne le contrôle d'un empire. Les 4X correspondent très exactement à l'exploration, l'expansion, l'exploitation et l'extermination.
J'ai tout compris. Voilà. Ça y est.
Et pour la petite histoire, ce terme a été inventé en 1993 sur une preview de Master of Orion. Écrite par Alan Ehrenreich.
Et tu vas dans le détail, hein. Oh là là.
Dans Computer Gaming World en 1993, et c'était une petite allusion au final aux 3X des films porno.
Entre
voilà, c'est pour ça que je savais.
C'est pour
pas,
ça que j'ai repéré cette petite news. Il me la fallait.
Je crois que Gros est parti. On va plus l'arrêter.
Qu'est-ce que c'est des 3X dans l'univers du porno?
Je suis collé au sujet.
Revenons,
j'ai pas trop dérivé.
Je pensais
pas trop d'anecdotes.
Piggy 18+.
Sonnette.
Donc voilà, donc le petit pitch de la série. Bon, c'est très simple. De toute façon, ça va pas se résumer à grand chose d'autre que d'agrandir son empire et d'aller taper les autres. Donc il y a trois civilisations dans le jeu. Donc les humains, les techs. Donc je me souviens plus ce que ça veut dire. Enfin, c'est l'alliance marchande des humains. Les Vazari, qui sont des lézards humanoïdes, et les Advent, qui sont des humains qui ont été exilés il y a de cela quelques temps et qui reviennent pour se venger. Donc tout ça sur le fond d'une guerre spatiale intergalactique entre ces trois races pour le contrôle de la galaxie. Voilà, donc la guerre dure depuis maintenant quelques dizaines d'années. Et il va falloir que vous choisissiez votre camp, ce qui n'influencera pas grand chose en termes de gameplay. Voilà. Donc le principe est toujours simple. Vous démarrez, vous avez votre planète mère qui est intégrée dans une galaxie avec un certain nombre d'autres planètes suivant la taille de la map.
Donc ça vous démarre comme un StarCraft, hein, c'est-à-dire.
Ça démarre comme un StarCraft. Alors, en fait, moi j'assimile ça à un...
Sauf qu'une base, c'est une planète.
Le StarCraft serait la micro-gestion de l'attaque que vous planifieriez dans votre guerre, alors que là on est vraiment sur la conquête de la galaxie avant de conquérir les planètes. Donc vous prenez le plus de planètes possible pour avoir le plus de ressources possible, et ensuite vous construisez votre petite flotte de vaisseaux et allez embêter, enfin en général c'est plutôt vous qui vous faites embêter, mais vous allez embêter vos petits camarades qui essaient de
Moi, pour ce que j'en ai compris, chaque planète il y a des gisements de minerais.
Alors voilà. Donc chaque planète est composée donc d'une planète ou d'un gros astéroïde qui peut faire office de planète sur laquelle vont se développer une population.
C'est un peu confus quand même, hein, au niveau du gameplay, au niveau des icônes.
Il trouvait Elite Dangerous trop simple à contrôler un seul vaisseau, il a décidé d'en contrôler 200.
C'est chargé.
C'est pas plus compliqué qu'une partie d'Age of Empire où tu vas construire trois bases, voilà. Sauf que là les bases sont déjà prédéfinies en termes de planètes déjà placées sur la carte.
Et toi tu étais habitué de ce style de jeu déjà,
oui.
Ou pas?
Oui, j'avais joué au premier en fait, parce qu'en fait, alors, juste pour la petite histoire, donc là c'est la version Rebellion qui est sortie en 2012 et qui en fait n'est autre...
Attends, il est sorti en 2012?
Oui.
Ouais, parce que sur les images qu'on voit là, ça fait pas très jeu de 2012 en fait.
que les auditeurs ne voient pas.
C'était une refonte graphique.
Mais ce n'est pas forcément le genre de jeu qui est axé sur le côté beau graphisme.
Non, moi, ce qui m'étonne, en fait, la question que je voulais te poser avant que tu continues, c'était qu'est-ce qui t'a amené à ce jeu-là, sachant que des 4X, il y en a quand même pléthore, et que on sait très bien qu'ils sont un petit peu ardus à prendre en main pour les non-initiés. Et en même temps, moi, si je devais m'y essayer, tu vois, je pense que soit j'attendrais. J'ai failli dire une autre bêtise. Soit j'attendrais Star Citizen, voir ce que ça donne, soit j'irais vers plutôt Eve Online, qui a quand même fait ses preuves, qui a une grosse communauté et qui est magnifique.
Oh, et qui est très compliqué à jouer aussi.
Oui, bien sûr. Bah, j'ai presque envie de dire, en fait, comme quasiment tous les 4X, à de rares exceptions près. Mais qu'est-ce qui le différencie?
Moi, j'inclurais celui-ci, puisque celui-là, il est en RTS, contrairement à la majorité des autres qui sont tour par tour.
Eve, c'est permanent. C'est pas du. C'est
oui, pas tous, mais quand même la plupart, tu peux y aller sur les Beyond Earth voilà, ou autres, les Homeworld, c'est tour par tour. Mais celui-ci est vraiment axé avec son côté RTS sur le côté combat. Donc construction de flotte et après aller se battre dans les systèmes ennemis.
Il n'y a pas trop de gestion de planète.
Il y a très peu de gestion de planète. Vous prenez votre planète, vous avez quelques upgrades à faire sur la planète, quelques bâtiments à construire si besoin. Au-delà de ça, ça va pas plus loin.
Parce que me jeter dans un Call of Duty en tant que noob avec un petit coutelas face à des mecs qui ont des gros usis, ça me semble très simple par rapport à ce jeu-là quand même. Où ils se ruent sur moi, ils m'envoient des millions de lasers à la gueule.
Alors, j'ai envie de m'enfuir quand je vois ça.
Je sais pas ce que j'ai, je sais même pas faire démarrer mon X-Wing.
Il faut savoir que ce jeu, j'ai acheté 4 clés. Oui. Une pour moi, oui. Une pour Gaël, oui. Une pour Eric, une pour un autre ami qui n'est pas câblé pour ce genre de jeu.
Son cerveau s'est fait un claquage du cerveau, le pauvre.
J'ai pas réussi à les y mettre. Pourtant, c'est le type de jeu où, quand on a deux joueurs habitués, sur une toute petite map, parce que bon, évidemment, il y a des maps énormes qui peuvent prendre des heures et des heures, mais en une heure, ça peut être plié, quoi.
Mais nous, on a fait une partie d'une heure. Hein.
Voilà, en une heure, le jeu est plié.
Et la dernière mise à jour, elle date de quand? Parce que tu disais que la sortie c'était 2012, on en parle maintenant parce qu'on
aucune
est vraiment
mise à jour
de l'actualité.
Mais en fait, cette sortie de 2012, donc la version Rébellion du jeu, ce n'est autre que le jeu original qui date de 2008 et ses deux extensions de 2009 et 2010.
Je peux te dire pourquoi moi j'ai.
Bien sûr,
moi accroché. T'as lâché la version.
Moi j'ai joué pas mal à StarCraft et c'est vrai que là je trouve qu'il y a une expansion qui est plutôt sympa. On fait des sauts intersidéraux de planète en planète et l'ennemi peut. On voit en fait les flux, quels sont les sauts possibles pour l'ennemi, donc voilà. On sait de quel côté
c'est très stratégique.
Là il y a une gestion des flux qui est assez sympa, mais après j'ai trouvé que les combats, c'est-à-dire l'objectif du jeu, c'est tu produis énormément de vaisseaux. C'est très simplifié en termes de gestion, c'est-à-dire que sur chaque planète, tu dis bon, je prends les ressources et c'est tout, il y aura plus rien à faire, il n'y a pas à augmenter la population, orienter. Ah bon? Bon, j'ai pas tout vu.
Après,
tu mets des points en recherche selon les points que t'acquiers, parce que t'as des usines ou des choses comme ça. Tu mets plus
comme
militaire,
tous les
plus
stratégie. Oui.
Voilà, il y a un petit côté.
Il est possible de gagner de manière diplomatique ou de gagner de manière économique, évidemment.
D'envoyer des
lettres à la civilisation. Il y a trois modes de victoire, c'est tout.
Non, il y en a six.
Putain, dis donc. Mais
moi, je connais pas tous. J'ai quand même beaucoup de respect vis-à-vis des gens qui jouent à ça. On dirait une simulation de poisson tropical dans un aquarium.
On a fait des combats. Moi, j'ai fait plein d'unités. J'ai tout balancé sur.
J'aurais besoin d'une formation d'une semaine.
Tu peux faire du alt tab. Hein.
Après, non. Faut voir ça.
Les combats, ils durent 10 minutes.
Non, mais justement, oui, parce qu'on a lancé nos deux petites flottes, l'une contre l'autre, sans trop se poser de questions. Mais au final, on peut très bien faire des combats. Tu peux diviser ta petite escouade de vaisseaux. Si t'as trois types de vaisseaux dedans, tu peux la diviser en trois et attaquer le mec avec la meilleure des capacités de chaque vaisseau. C'est-à-dire que les distances, plutôt que de les mettre dans le paquet de tes troupes qui vont se faire attaquer, on va dire entre guillemets au corps à corps, vraiment les laisser à distance, ce qui va obliger l'autre soit à les focus eux et pas les vaisseaux au corps à corps, etc. Enfin bon, mais
alors là,
beaucoup de choses de possible.
Point, c'est que graphiquement, comme tu es obligé d'avoir un point de vue total sur la bataille, tu es obligé d'éloigner la caméra et dès qu'on passe à plus de, j'allais dire, de 100 mètres, mais je pense que c'est des années-lumière pour voir toute ta flotte, en fait, toutes les unités qui sont assez bien modélisées quand même se transforment en des pions. Enfin, des jetons en 2D.
Tu vas encore plus loin, ils sont seulement représentés par des jauges autour des planètes.
Comme dans Ruse, en fait.
C'est un peu à l'époque. C'est dommage, je trouve que c'est mal géré.
Mais en même temps, quand tu vois le nombre de planètes, c'est impossible de représenter. Et les petits icônes sont très utiles, puisque tu distingues le type de vaisseau.
Ah bon ?
Avec l'habitude.
Dis-moi, gros, est-ce que tu conseillerais ce jeu pour quelqu'un qui débute le 4X ?
Eh bien, c'est ce que je comptais faire. mais bon, au vu des résultats, beaucoup moins en fait.
Non, parce que
je m'aperçois que je joue à des perdu, jeux là. Vraiment spéciaux. Mais...
Parce que là, non, là de ce que j'en vois, hein, les auditeurs pour aller regarder des vidéos, il m'a l'air très austère en termes d'interface.
Ah ouais.
Et
bah, on voit jamais l'interface en fait.
Moi j'adorerais que ma copine joue à ça et je me mettrais comme ça, je la regarderais jouer. C'est pas gagné. Mais à voir comme ça, c'est hyper attractif, c'est hyper joli et tout.
Non, alors pour
mais
moi
c'est vrai
ça
que ça fait un peu peur.
C'est pour moi ça reste quand même le plus abordable de quasiment
imagine
un des
le
plus
reste,
abordable
hein.
du genre.
Ouais, plus que civilisation.
Plus que civilisation.
Et pour, moi pour
parce
être
que
un habitué
l'orbe de talent ne va pas super loin. Il y a pas à peu près 700 technologies possibles à rechercher. Vous avez 6 paliers en militaire, en défense et plus
tard. Dans civilisation généralement c'est quand même bien présenté, on s'y retrouve.
Moi pour être un habitué des jeux
c'est bien représenté, on s'y retrouve aussi hein.
Pour être habitué un peu à des jeux à la StarCraft,
c'est sûr qu'au premier coup d'œil, c'est peut-être
pas,
un peu déroutant. Mais en fait, les images que tu vois depuis tout à l'heure, ce sont que simplement que ce que tu peux voir dans le jeu en te rapprochant de tes vaisseaux et en cachant l'interface. Mais le jeu en lui-même, il est, tu n'y joues jamais de cette manière.
On dirait un combat dans Albator.
Tu peux aller faire des petites visues sur ce qui se passe de près, de manière assez jolie, mais pas plus.
Moi, pour être habitué un peu aux jeux StarCraft, Age of Empires, quand je suis tombé dessus, en fait, ce qui m'a gêné, moi, c'est plus la caméra. Le fait que tu puisses vraiment tourner à 360, à regarder en dessous, au-dessus, au-dessus, et tu t'y perds vachement en termes de
vaisseau. Ça, c'est un des petits bémols du jeu.
Si tu perds un de tes vaisseaux, tu le retrouves pas.
Si.
Enfin, moi, j'ai pas retrouvé.
Si.
Et du coup, t'aurais pas envie qu'ils sortent une méga mise à jour, là, parce que quand même, 3 ans et demi, c'est pas mal.
C'est un jeu qui est destiné à mourir de sa belle mort.
Là, on a mis une image du jeu.
Je pense que ça.
Il y a 3 milliards d'icônes, des voilà. Partout.
Vous pouvez
on la mettra sur le
ça, pour démarrer, c'est bien.
je vais pas vous faire une analyse de l'interface, les auditeurs comprendraient rien, mais voilà, vous jouez de cette manière-là, sauf qu'en général, vous voyez plus vos systèmes de planètes plutôt qu'un combat en rapproché, quoi.
Et il y a des vrais gens qui achètent vraiment ce jeu, c'est pas qu'un jeu pour bêta-testeurs.
Bah oui,
il y a une communauté qui est fort restreinte et fort cachée, mais elle existe.
On a énormément de respect pour eux, on leur fait un petit coucou au passage.
Voilà. Bon, donc c'est un jeu que je recommande pour ceux qui ont envie de se lancer, mais vraiment, il faut avoir envie de s'y lancer.
C'est sur quelle machine ?
PC. Exclusivement
et
PC.
Et quelles autres machines ?
PC.
Exclusivement PC.
Un gros PC.
C'est PC, PC et PC, d'accord.
Merci Alex.
De rien.
Allez, on passe à notre deuxième chronique, celle de Patoun.
Okay.
Alors, de quoi tu vas nous parler, Patoun ?
Ouais, je vais vous parler de Anno 2205. Oui, c'est bien ça, l'année 2205, jeu de gestion stratégie temps réel. Qui se passe donc dans le futur. Voilà, on a colonisé la Lune, oui, merci.
La Lune
aller, oui, la Lune, pour en extraire des ressources de l'hélium 3.
C'est
voilà.
Nouveau ça.
Attends, c'est pas le jeu de gros ça ?
Si, si, c'est aussi
si,
un des jeux de
mais
gros.
C'est ça, Cam, il nous a fait tout un dossier à l'époque des singes volants, si je me trompe.
Oui,
si
les premiers épisodes de What the Duck.
Voilà, donc on commence tout en bas de l'échelle. On monte une petite corporation pour aider Global Union dans son projet lunaire. Et on est en concurrence avec d'autres grosses sociétés qui vont essayer d'atteindre vos objectifs.
On est toujours sur une map avec plein d'îles.
Non, on est sur plusieurs maps.
Tu veux dire des planètes différentes ?
Non, oui, il y a la Terre et la Lune.
Ah oui, donc on est sur deux cartes.
Voire plus.
Plus. Techniquement, là, on peut en avoir 9.
Oh là là, wow. Encore un jeu qui fait mal au crâne.
On peut en avoir 9. Alors, on démarre avec une.
Ouais.
Voilà, on choisit un secteur à la base. Et un secteur basique et une zone tempérée avec de la forêt et tout. Donc, il faut faire venir des habitants pour
standard.
Extraire des ressources. Voilà, tout standard. Il faut veiller à ce qu'ils aient les ressources, les biens.
On fait des fermes, on fait.
Voilà, ce genre de trucs.
On fait de la bière, on fait du houblon. Ouais. Enfin, moderne.
Non,
quoi.
Voilà.
La version moderne.
C'est des boissons vitaminées qu'on fait.
Ah là, maintenant, c'est.
Nous, en 2205, on ne boit plus d'alcool.
Il y a un skin 2205.
C'est du pchit.
Voilà. Si on voit l'alcool, pardon, mais que du vin.
La France a gagné et Red Bull.
Voilà. Très rapidement, on va avoir besoin d'autres ressources qui ne sont pas disponibles sur cette carte. Donc, on va aller en Antarctique. Là aussi, toujours le même trip. Voilà, il faut faire venir des habitants.
Ah, donc on arrive sur un territoire désolé, enneigé.
Voilà, exactement.
D'accord.
Avec une petite... Euh,
une petite subtilité, toute petite, mais qui est bien chiante à gérer, bien chiante comme il faut, c'est qu'il fait très froid. Et voilà.
Et le froid,
donc
ça
tue. Il faut chauffer tout ça. Mais comme on a 2205, il y a eu des dégâts climatiques et tout, donc c'est très surveillé et on n'a pas le droit de construire de centrale thermique pour chauffer. Donc il faut placer vos usines. Et c'est elles qui vont générer de la chaleur. Donc donc il faudra veiller à dispatcher suffisamment bien vos usines de manière à ce qu'il y ait suffisamment de zones chauffées pour pouvoir accueillir assez d'habitants.
Ça rajoute une petite subtilité topographique sur les maps enneigées, c'est ça?
Exactement. Et c'est très compliqué. Pour tout vous dire, j'étais sur la première carte, super, j'étais en solde positif. Je gagnais du pognon et tout.
Bling,
ouais.
Bling, quoi.
J'étais là, trop facile le jeu. J'arrive en Antarctique, je commence à faire du moins 30 000. Donc, le compte en banque qui commence
moins
à se vider.
Moins 30 000, surtout quand il n'y a pas d'unité, on sait très bien ce que ça veut dire. C'est
moins 30 000 crédits, pardon. Alors après, je ne sais pas la période, sur laquelle période, mais ça chutait vite.
C'est un peu comme l'hiver dans Don't Starve, c'est-à-dire, il faut bien te préparer avant, quoi.
Voilà, exactement. Donc, je me suis vite retrouvé en banqueroute, puis on m'a fait des crédits, un second crédit, parce qu'après ce premier crédit, je suis retombé en banqueroute. Ils sont très sympas, les banquiers, en 2250. Qui vous font des crédits à tout va. Résultat des courses, je me retrouve avec 10% de mes bénéfices qui sont ponctionnés pour. Enfin, voilà, je faisais pas encore de bénéfices, mais 10% de mes potentiels bénéfices qui sont ponctionnés pour rembourser ces crédits-là.
Il y avait déjà des crédits dans les anciens anneaux?
Je ne sais pas du tout.
Oui.
Sur le 2070, les précédents, non.
Il n'y avait pas de crédit en 1600.
Non, en 1600 et quelques.
Il y a relation entre le 2070 et le 2205 ou pas? On retrouve une filiation, on retrouve des systèmes ou...
Pas que je sache, c'est le premier anneau auquel je joue.
D'accord.
2070, la grande nouveauté de celui-là, c'était vous aviez deux camps. Vous pouviez soit vous développer avec une faction très industrialisée qui produit beaucoup de pollution, etc. soit faire une version très écologique, moins de pollution, mais moins rentable en termes d'énergie, etc. Est-ce que c'est conservé?
Il n'y a pas du tout ça ici.
Là, on est plus sur des climats différents.
Voilà, le côté écologiste du jeu n'a pas perduré, quoi.
C'est du SimCity.
SimCity, ça fait trop longtemps. Je peux
c'est
pas...
un SimCity. Moi, je connais. C'est marrant ce que tu disais parce que tu parlais du côté écologique. Moi, j'avais entendu parler de la licence via cet aspect-là, justement.
Ouais.
Donc, c'est quand même bizarre qu'il l'ait pas préservé.
Parce que maintenant, chaque jeu, ils essayent de le différencier un petit peu. C'est comme les Assassin's Creed. Il y en a avec celui-là, on va rajouter un Tower Defense. Celui-là, on va rajouter la gestion des bombes, etc. Bon, ils ont des petites pistes comme ça. Voilà.
Donc une de vos principales missions,
c'est du César-like, hein, c'est-à-dire beaucoup de gestion.
C'est ça, c'est que du développement.
Je peux finir ma phrase autrement?
Vas-y. Essaye un peu.
Une de vos premières missions dans le jeu, ce sera de construire un spatioport pour aller sur la Lune, tout simplement, et pour pouvoir
prendre d'autres ressources, en fait.
D'autres ressources là-bas, aller fonder une colonie là-bas. Comment on y va sur la Lune? Un ascenseur, apparemment.
Mais ça, c'est scientifiquement possible.
Un bon fil, quoi.
L'ascenseur dans l'espace, c'est une des
ouais, pas
des,
sur
des,
la Lune.
Si, partout. Enfin, c'est une théorie qui existe depuis très longtemps et qui est tout à fait plausible. Bon, je crois qu'ils ont du mal à trouver les matériaux suffisamment résistants pour le faire.
Le problème, c'est le câble, je crois.
Voilà. Mais
c'est pas le problème qu'elle tourne autour de la Terre, la Lune?
Non, c'est pas grave.
C'est pas grave, ça?
Non.
Non, mais je crois pas. C'est pas. Là, tu es en train de nous dire qu'ils ont câblé la Terre et la Lune, c'est ça?
Oui, c'était le principe à la base.
Ils ont réussi à la figer.
Non, ils vont pas jusqu'à la Lune, en fait. Ils vont jusqu'à une station orbitale.
C'est ça, ouais.
Au début,
c'est tout à fait possible,
ça,
en fait.
C'est
une station géoorbitale.
Ça m'a fait
géostationnaire, reliée par câble.
Mais l'abonnement chez Koné est trop cher, quoi. De maintenance.
Non, ça m'avait juste fait rigoler au début parce qu'en fait, ils précisent pas, en fait.
En l'occurrence, tout l'intérêt d'un tel système, là, on fait une petite digression technologique, mais c'est justement d'économiser toute l'énergie qu'on dépense à extraire quelque chose de notre atmosphère, sachant que c'est là où on dépense le plus d'argent, c'est tout ce qui est lanceur, etc.
Et si on avait
un accès directement à l'espace, ça coûterait bien moins cher.
On le voit bien dans Seul sur Mars, d'ailleurs. Voilà. Bon.
Okay. Voilà. Alors.
À qui tu conseilles ce jeu?
tous ceux qui aiment les jeux de gestion.
Oui, voilà, à part. T'y as joué d'ailleurs, gros?
Bah, 2205, non, il sort lundi ou mardi.
D'accord. Mais tu vas l'acheter?
Oui.
Ah, d'accord.
Ouais, moi, je
l'ai déjà précommandé.
Oh.
À tous ceux qui veulent s'y essayer, parce que les didacticiels, ils sont bien foutus. Sur la Lune, on a la petite spécialité, c'est qu'il y a des chutes de météorites. Donc il faut construire des boucliers pour protéger ses installations, sinon c'est dommage.
Donc t'as la Lune, les zones arctiques, le climat tempéré, et tu disais qu'il peut y avoir jusqu'à 9 cartes, c'est parce que...
Parce qu'il y a 3 cartes par type de...
De continent.
Par type de continent.
Voilà. D'accord. C'est un studio allemand, hein, c'est ça, qui a développé
Blue Byte.
Blue Byte.
Édité par Ubisoft.
En gros, ils jouent aux jeux polonais et allemands.
Ils sont allemands, hein, je crois.
Je crois, ouais, qu'ils sont allemands.
Et est-ce qu'ils ont conservé ne serait-ce qu'un petit système de combat? Enfin, est-ce qu'il y a un multijoueur vraiment de prévu? Parce qu'il y a toujours eu cette petite notion dans un autre.
J'ai pas vu de.
C'était pas très développé, mais bon.
J'ai pas vu de mode multi. Je vais être honnête. Ceci dit, il y a une faction de terroristes indépendantistes qui s'appelle Orbital Watch.
Ouh.
qui veulent rester tout seuls sur la Lune. Ils veulent personne d'autre. Donc,
libérer la Lune.
Voilà. Ils sont déjà sur place.
Il n'est pas la Lune. Mais
ils sont déjà sur place.
D'accord.
Oui. Ils vous attaquent sur Terre aussi. Donc il y a des combats stratégiques, entre guillemets. Parce qu'on a des bateaux.
Les combats n'ont jamais été magiques.
En fait, on a différents types d'unités, mais au final. On les balance toutes sur les vaisseaux ennemis et ça passe quoi.
D'accord. C'est du Age of Empires dans les combats.
Après, on a des bonus qu'on peut utiliser comme une attaque de missiles nucléaires.
Tu parles des bateaux, mais des bateaux sur Terre, j'imagine.
Aussi.
Bien sûr.
Sur Terre, pas.
Ils n'ont pas amené de la flotte sur la Lune.
Sur la Lune, il n'y a rien. J'ai pas eu de combat sur la Lune encore.
D'accord. Et pour conclure, question piège, il va sortir à combien?
Ah, question piège.
Ah. Non, tu l'as pas? T'as pas
aucune idée.
Je crois qu'il va sortir à son juste prix.
Alors, il est à 59,99 pour la version normale et la version Gold qui inclura tous les DLC à 80€. Avec une promotion qui la descend à 70 sur Steam, ce que j'ai vu hier en tout cas.
T'as la veste pour aller en Arctique?
70€ pour avoir les DLC qui iront avec.
T'as acheté la collector?
Oui.
Oh,
le mec achète un appart et continue à acheter des jeux quoi.
Je t'annonce tout de suite, gros, quand tu vas faire ta station de métro, tu vas galérer.
Je suis là pour ça, ça tombe bien.
J'ai passé 2 heures à tout réorganiser quand je l'ai construite.
Ok, merci Patoun. On enchaîne ensuite avec notre prochain jeu, Pared, qui va nous parler de Sunset.
Bah ouais. Alors justement, je voulais vous parler de Sunset. Alors là, nos amis consoleux seront peut-être un petit peu désolés parce qu'on parle beaucoup de jeux PC aujourd'hui, et c'est pas moi qui vais changer puisque le jeu est disponible sur Steam pour PC, Mac, Linux. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce titre. Ça a été développé par un studio que j'admire beaucoup, qui est un studio belge qui s'appelle Tale of Tales. Qui avait lancé un Kickstarter à l'occasion de la sortie de Sunset. Ils avaient quand même récolté 67 000 $, ce qui est vraiment pas mal du tout. Le problème, et on peut attaquer par ça, c'est que le titre s'est vendu aux alentours de entre 4 et 5 000 exemplaires.
Ah, il est sorti
toutes ventes confondues, c'est-à-dire y compris soldes Steam ou les gens qui avaient déjà backé le jeu sur Kickstarter. Donc c'était quand même un peu tendu pour eux parce que
ça fait pas beaucoup.
Non, ça fait pas beaucoup. Et moi, je vais dire tout de suite ce que j'en pense. Je peux comprendre certaines raisons de difficulté de vente. On va y revenir. Mais le jeu est admirable. C'est une grosse claque. Ça renvoie quand même à la question sempiternelle de ce qu'on comprend ou de ce qu'on conçoit comme étant un jeu, à quoi on a envie de jouer, à quoi on a envie de participer. C'est sûr qu'on pourrait mettre plutôt une expérience narrative.
Au premier abord, de quoi s'agit-il, Sunset?
Ouais, bah voilà, donc c'est comme je te le disais, peut-être une expérience pas forcément narrative parce qu'il y a quand même des interactions, mais moi j'ai rangé ça dans ma case First Person Walker. Donc les gens qui ont bien aimé Gone Home, Dear Esther, Everybody Gone to the Rapture, The Vanishing of Ethan Carter et et consorts seront quand même en terrain
et puis
un peu plus connu
dans le genre
c'est hyper intéressant. C'est une forme c'est la forme moderne du FPS en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un FPS en retirant le S et en essayant d'être autre chose, de tirer un peu moins sur tout ce qui bouge. Donc pour rentrer dans le détail, on joue c'est un simulateur, enfin c'est pas un simulateur, mais on joue une femme de ménage dans les années 70, une femme de ménage afro-américaine, ce qui est suffisamment rare et appréciable pour être signalé. Et on la joue dans une république bananière, dictatoriale, située en Amérique centrale, qui n'est pas nommément définie. Moi, que j'ai placé au Nicaragua, mais bon, après, ça dépend un petit peu de votre ressenti. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que voilà, on va avoir des tâches ménagères à faire. On a été employé par un mec qui travaille dans le milieu de l'art. Et on doit venir une fois par semaine faire une heure de ménage dans un penthouse, c'est-à-dire un immeuble tout en haut d'un immeuble de luxe. Enfin, un appartement de luxe tout au long d'un immeuble, et on doit faire une heure de ménage toutes les semaines jusqu'au coucher du soleil. Donc on a des tâches ménagères et on va jamais bouger de cet immeuble. On va rester de cet immeuble, donc on n'ira jamais dehors. Et là où c'est intéressant, et peut-être vous me voyez venir, c'est qu'en fait, le côté ludique et le fait d'avoir des tâches ménagères à remplir, que ça soit vider des cartons, rapiécer des pulls au vert, préparer la nourriture, etc., etc., c'est vraiment une excuse. C'est pas très excitant.
Oui, parce que moi, ça me donne pas. Mais, je dirais, ouais, c'est.
Mais c'est pas du tout.
De résumé,
évidemment. Page. Mais c'est pas du tout le but du jeu. C'est-à-dire voilà. Qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une relation qui est en train de se faire, pour moi, en trois volets. Une relation entre la femme de ménage, vous et votre employeur, que vous ne voyez jamais. Une relation que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire ça peut être une relation qui peut être très froide, très professionnelle, ou qui peut se réchauffer. C'est-à-dire vous avez le choix quand vous faites des actions. Par exemple, vous avez juste des listes de choses à faire qui vous a laissé, et vous pouvez faire quelque chose d'un petit peu plus. Vous pouvez améliorer son cadre de vie si ça vous arrange, si ça vous plaît ou pas. Et donc la relation elle-même va être interactive. Il y a beaucoup d'humour. Il y a parfois des sentiments qui sont très très forts, qui commencent à se développer. Le deuxième pan, c'est la situation dans laquelle vous êtes projeté, puisqu'il y a une révolution en cours, et en fait on ressent toute la révolution du peuple uniquement au travers de ce prisme d'être prisonnier quelque part de cette activité, et d'être complètement aux antipodes de ce que vivent les gens au rez-de-chaussée, j'ai envie de dire, dans la rue, puisque nous on se retrouve dans le ciel et on échappe complètement à la réalité.
On est vitré et on voit la ville, les immeubles en flammes, etc.
Y a des interactions. J'ai pas trop envie de parler des détails du jeu, parce que justement tout part du fait qu'on va se faire chier et qu'on se fait, bon, en tout cas moi, jamais chier, qu'on est complètement on se fait jamais chier, on est complètement happé par l'histoire. Et c'est là le troisième plan, c'est-à-dire comment le jeu s'adresse aux joueurs. Et c'est vraiment hyper original. C'est vraiment hyper original. On peut pas ne pas être admiratif devant la qualité de la narration et l'équilibre ludique qu'amène un titre comme ça.
En fait, on est envoyé dès le début comme ça. On arrive directement dans l'immeuble et puis on fait ce qu'on a envie, ou il y a une trame autour.
Oui, t'es libre. En fait, c'est comme un FPS. C'est exactement vu FPS. Donc tu peux te voir dans la glace. On rentre par l'intermédiaire d'un. On est dans à chaque chapitre. En fait, le jeu est découpé en 44 journées, donc ça fait 44 semaines, et on arrive par l'intermédiaire d'un ascenseur, on se voit dans l'ascenseur, on peut se voir dans les miroirs, etc., et on a une liste de choses à faire, mais on est libre dans l'appartement et on est seul, surtout. C'est un jeu qui est extrêmement paisible, pensif. Il y a énormément d'œuvres d'art à regarder. Donc en fait on découvre la vie de notre hôte, soit par beaucoup de comment on appelle ça, je vais retrouver tout à l'heure, mais
est-ce qu'on
regarde quelque chose,
mais est-ce qu'on débloque des nouvelles scènes pour que la trame de l'histoire continue, ou alors c'est
ou déjà ou alors on est porté, vu que c'est un huis clos. c'est un huis clos.
Oui.
Le jeu, l'évolution du jeu va c'est passer par ça, l'espace. Voilà. C'est-à-dire que l'espace lui-même va évoluer. On va l'améliorer ou le détériorer. Il va y avoir des interactions via la révolution de dehors qui vont venir pénétrer notre intimité, entre guillemets, en tant que femme de ménage. Et elle se laisse pas faire. Hein. C'est une Afro-américaine. Je crois qu'elle a fait des études en plus assez poussées. Donc elle est femme de ménage, mais tu sens que c'est quelqu'un qui a quand même bossé. Et donc du coup, elle a un regard critique sur ce qui se fait. Et le mec pour qui on bosse, qui est un gros bourgeois, etc., on va voir qu'il a une relation particulière avec la révolution qui va nous faire poser tout un tas de questions. D'abord, on va être très critique, évidemment, parce qu'il y a un peuple qui est en train de se soulever et la femme de ménage est en relation concrète, familiale avec cette révolution, parce qu'elle a son frère qui est impliqué, etc. Et on est chez un riche mec qui donne l'impression de faire un petit peu tout l'inverse, et on va voir que c'est pas si manichéen que ça.
Et il y a une fin.
Il y a une fin, mais je suis pas encore arrivé.
C'est un peu comme tu es habitué à nous parler de jeux quand même assez bizarres, un peu comme Papers, Please dont tu nous avais parlé, où chaque jour on refait à peu près la même chose avec des changements, quand même une évolution.
Ça y fait penser, alors pas du tout dans la forme, parce que le jeu est magnifique.
Papers, Please était magnifique dans son genre.
Oui, ben, il était en pixel art. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus réaliste. Si vous avez la chance d'y jouer sur des grosses bécanes, n'hésitez pas. Moi, j'y joue sur Mac, je le booste un peu et le jeu est pas exempt de bugs. Hein. Ils ont eu vraiment une finition qui était pas au top. Ils en ont vraiment chié. Comme le jeu s'est pas vraiment vendu, je crois que le suivi a pas été top.
Il est bridé pour Mac.
Pour moi, c'est incompréhensible. Le jeu est vraiment, enfin, je peux comprendre que quelqu'un qui a envie de faire du frag ou de faire du 4X ou de faire ce que vous voulez comprenne pas du tout l'objet de ce jeu. Mais c'est vraiment le joueur qui fait fausse route, parce que tout est très clair. C'est une expérience à vivre.
Non, j'ai pas trop entendu parler.
Non, pas tellement aussi.
Quand même, ça a été bien porté par des magazines, y compris à l'étranger, par Hot Paper Shotgun, etc. Il y a peut-être eu des erreurs qui étaient commises.
Mais est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il y a une interface ou il y a
non, c'est très simple. C'est du point and click via SPS. Donc d'accord, l'interface est très très pure. D'accord. L'ambiance est très 70s avec comme on est toujours au coucher du soleil. On a des couleurs avec du soleil chatoyant, etc., etc.
Mais en niveau interaction, c'est
les interactions, elles sont très très simples. Hein. Tu vas écouter de la musique classique, tu vas écouter de la musique contemporaine, tu vas ranger deux disques. Mais là où je veux vraiment insister là-dessus, le but du jeu, c'est pas que ça soit chiant pas chiant. Le but du jeu, c'est de vivre une expérience.
Moi, ça me va, hein, y a pas de souci.
C'est vrai que l'expérience, c'est comme si on disait, moi, je vais pas voir un film parce que le mec, il va rentrer pas dans un vaisseau spatial où il tue pas quelqu'un. Il y a plein de films qui sont saisissants et intéressants, alors que les actions paraissent anodines. Là, c'est pareil. La seule chose, c'est que dans un jeu vidéo, on n'a pas tant que ça d'exemples qui font que ça a marché, etc. Donc, je peux aussi comprendre tout à fait qu'on puisse passer à côté. Hein.
C'est peut-être pour ça aussi que c'est peut-être mal vendu, c'est que les gens n'ont pas compris peut-être l'intérêt.
Je pense que les gens où il a été
arrivé au mauvais moment.
Ils avaient quand même fait des jeux, ça fait 12 ans je crois que le studio existe, ils ont fait au moins 8 ou 9 jeux, tous un peu barrés. Ils avaient fait The Pass, The Graveyard, Bientôt l'été qui était un jeu inspiré de Marguerite Dumas, Luxuria Superbia sur tactile. Moi ce que j'aimerais en fait, c'est que ce jeu de contemplation existe en expérience de réalité virtuelle.
Ah ouais, évidemment. Ouais.
Moi j'ai vraiment adoré ça, c'est sûr que c'est original, je me mettrai pas ça toujours, mais en même temps...
Il adore passer l'aspirateur.
Non, mais tu c'est même pas le problème de l'aspirateur, c'est le fait que tu fais des choses à répétition, un petit peu comme dans Papers, Please, où je me suis dit mais what the fuck quoi. En fait, douanier, c'est il y a une vraie problématique,
il y a quelque chose derrière, voilà, c'est ça.
Je me suis dit exactement la même chose sur parce qu'en fait, éboueur, enfin des petits métiers, femme de ménage, tout ça, c'est des métiers auxquels on réfléchit même pas parce qu'ils nous semblent tellement anodins. Et en fait, c'est super intéressant de se plonger dans ce genre de psychologie. Il y a une répétition, il y a évidemment du respect, une distanciation, il y a beaucoup de choses à en comprendre, et moi ça m'a passionné. Donc c'est sûr que le jeu, il y a quand même des choses qui peuvent chagriner, hein. Je vous ai parlé de la technique qui était un petit peu légère, légère.
C'est sur PS4 que tu as joué ?
Non, j'y ai joué sur Mac. Il n'est pas disponible sur console, pas encore. J'aimerais énormément que ça soit le titre de jeu qui prenne un petit peu son temps à être reconnu, et que par exemple quand le PlayStation VR sorte, ou qu'il y ait d'autres casques qui sortent, qu'il y ait un petit peu un trou, et que justement ce genre de titre puisse bénéficier de remasterisation VR. Voilà, quand on sera en manque de titres VR, c'est tout à fait le genre de jeu qui existe déjà, qui sera facile à adapter et qui serait vraiment saisissant.
Est-ce qu'il y aura un réel public pour ça?
Mais ouais, bah, en tout cas, il y a moi.
Stanley Parable et
moi, je sais pas si
il y a toujours
quand j'en parle.
C'est des jeux qui ont bien marché.
Plutôt de niche, alors c'est plutôt un jeu de niche parce que maintenant les génératifs, il y en a de plus en plus.
Faut quand même savoir que le mec qui a fait la musique, c'est Austin Wintory, hein, le compositeur de la musique de Banner Saga et de Journey. C'est pas des branques. Les mecs qui font ça, ils sont vraiment passionnants. T'as plutôt l'impression qu'ils font l'effort d'aller vers les joueurs. Moi, c'est un peu l'impression que ça me donne. C'est tout à fait le genre d'expérience qui aurait peut-être plus facilement sa place dans un musée. Et les mecs disent non, nous on fait des trucs intelligents parce qu'on pense qu'il y a des joueurs qui sont intelligents et qui ont envie de jouer à ce genre de titre. Et donc là, vraiment, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité aussi des joueurs de vouloir soutenir ce genre de titre. Après, voilà, bon, on peut quand même rigoler. Moi, je trouve que le titre est un petit peu cher. Il les vaut. Il est à 20 euros, à 19 euros sur Steam. Honnêtement, je le répète, il les vaut.
C'est un peu
mais le positionnement est vraiment compliqué.
Mais c'est pas pour tout le monde.
Voilà, il faut se connaître aussi.
C'est clairement pas pour tout le monde. Ouais. Pour terminer, je voulais juste leur passer un petit coucou à Telltale parce que je pense que ça a été Tale of Tales, pardon. Je pense que ça a été un peu chaud à la suite de Sunset. Et là, j'ai vu récemment qu'ils avaient Alléluia annoncé leur prochain titre. Ouais. Alors qu'ils re-kickstartent encore. Ça s'appelle Cathedral in the Clouds. C'est leur 9e titre en 12 ans, si j'ai bien calculé. Ça me fait beaucoup rire parce que les mecs insistent vraiment. Hein, ils se sont dit là vraiment, on va faire quelque chose de beaucoup plus accessible, quelque chose de ludique.
Bah déjà c'est accessible donc. Bon,
donc
qu'est-ce qu'il
peut avoir, on a quand même pensé aux joueurs et tout. Et en fait, vous irez voir le projet sur Kickstarter si ça vous intéresse. L'idée, c'est de concevoir une cathédrale en 3 dimensions virtuelle. Ça sera une expérience qui se jouera uniquement en réalité virtuelle.
Ouais.
Et l'idée, c'est d'observer, d'être dans la contemplation et la méditation devant des peintures flamandes recréées en 3D. Point barre.
Et pourquoi pas ?
Où sont les zombies ?
Il n'y a pas d'interaction.
Et alors le pire, c'est que moi j'ai vu, évidemment, j'ai regardé la vidéo sur Kickstarter, ça fait super envie. Ça fait vraiment super envie.
Ils ont un peu arctique.
Ah putain, ils sont vraiment barrés quoi. Ça fait du bien de les voir, ils ont vraiment leur place. Aujourd'hui, c'est encore compliqué, on le voit, de toucher les cibles pour ce genre de titre.
Ce qui leur manque, c'est un titre qui explose un petit peu et après, le grand public pourrait même redécouvrir leurs anciens projets.
Être mis en avant.
C'est dommage qu'ils n'arrivent pas à percer.
Oui, après, moi ça me rappelle beaucoup de. Ça me rappelle plus l'art contemporain en fait. Il y a beaucoup d'artistes contemporains qui vont avoir fait 10, 15 ans, 20 ans de carrière avant de débarquer pour des publics un peu plus gros.
Il faut tout simplement comprendre ce qu'ils font, c'est ça en fait.
Là, franchement. Je peux comprendre que c'est pas hyper drôle, mais les phases de jeu sont très. Je reviens à Sunset. Ouais. Les phases de jeu sont courtes parce que c'est des petites journées comme
c'est
ça qui se font. Donc c'est hyper jouable. Oui, vous allez pas vous taper le cul par terre et vous allez pas faire du frag à tour de bras. Franchement, vous allez être peut-être un peu plus intelligent pendant quelques secondes en jouant à un jeu vidéo. C'est suffisamment rare pour être signalé.
Une journée, tu disais que une journée de jeu, ça dure 5-10 minutes, c'est ça?
Ouais, à peu
ça
près,
se coupe,
ouais,
ça se coupe et on est là.
En fait, ça dépend. C'est pas ça.
Tu pars et tu.
Je crois que tu as des tâches à faire, tu dois avoir un clock, enfin une horloge qui tourne, et puis après tu peux partir quand on a envie si tu as si fait
bien.
Tes.
PC, Mac, 20 euros.
Pour l'instant, PC, Mac, Linux, 19,95 euros. Et vraiment, vous pouvez pas l'essayer parce que je crois pas qu'il y a de démo, mais faites-moi confiance et lancez-vous là-dedans, au moins vous aurez découvert un style de jeu.
Il a des actions, je pense, dans le jeu, il essaie de récupérer un peu de sous. Ok, merci Red. On passe tout de suite au jeu suivant qui est le mien.
Absolument, Gaël.
The Park.
Nous parler de The Park, un petit jeu que t'as acheté sur Steam, voilà 3 jours, le jour de sa sortie.
C'est ça. Il est sorti le 27 octobre. Il est développé par Funcom. Alors,
les Norvégiens. Parler.
Oui. Ils ont fait quoi? Comme gros jeu notamment?
Des gros MMO, ils ont fait.
Ils en ont fait un gros.
Spécialiste MMO.
The Secret World en 2012.
Ouais, mais je pense qu'avant, ils avaient fait Conan, etc.
Et en 2015, donc, un petit jeu. Alors, il est, c'est un survival horror jouable uniquement en solo. Il est sur Steam à 9 euros. Je trouve presque qu'il est trop cher. Je vais vous expliquer pourquoi.
La vache.
On se retrouve, en gros, le pitch, c'est on se retrouve dans le rôle d'une femme qui s'appelle Lorraine et de son fils. Enfin, on a son fils avec elle qui s'appelle Callum. Et on se retrouve, je peux lancer le début du jeu, sur le parking d'un parc d'attractions et notre fils a oublié son ours en peluche dans le parc. On décide d'aller demander s'ils ne l'ont pas trouvé à l'accueil et notre petit enfant complètement débile décide de s'enfuir de le parc.
Grosse question, est-ce que c'est un parc de jour sympathique avec des mascottes ou est-ce que
tu commences
un parc
de jour
de nuit?
Alors en fait, tu
avec
commences
des zombies.
La première scène se passe à la fin de journée au moment de la fermeture du parc.
Ah oui.
Et notre fils part dans le parc tout seul à la fermeture. Donc
un peu comme Jurassic World quand on dit de faire rentrer les boules à la base parce qu'il y a un monstre qui est dans. Qui
sauf que Jurassic World, il y a beaucoup beaucoup de monde. Là, il y a personne dans le parc.
D'accord.
Donc voilà, donc on part du coup à la recherche de notre fils. Alors c'est l'histoire, elle est bête et méchante. Hein. C'est un peu comme le jeu de Red, c'est-à-dire que c'est juste un. Ça pourrait être juste un mini court-métrage en fait. Ça pourrait être. Okay. En termes d'interaction, on est à la première personne. Mm-hmm. On a très peu d'action.
C'est en 3D.
On a un clic droit où on appelle son fils et il nous répond. Enfin, il nous répond.
On peut se déplacer librement.
C'est où es-tu, Kaloum ? Ah, suis-moi !
Ah, la vache !
Ouais, voilà.
Change de gamin, quoi.
Donc, j'ai déjà peur, moi.
L'ambiance est quand même très sombre. Les parcs d'attraction, voilà.
Mais le parc ferme, il n'y a plus personne.
On se retrouve en fait à monter, à rentrer dans le parc et tout d'un coup, la nuit tombe, on ne sait pas comment. Tout devient très sombre, très froid, très flippant.
Il n'y a personne, donc c'est le futuroscope ou.
Ah bah, t'es tout seul dans le parc.
Un petit troll.
Et voilà, on se retrouve dans un univers morbide et psychologique où on cherche notre enfant. D'accord. Je peux pas en dire plus ou sinon je balance tout le jeu.
C'est Heavy Rain.
Petite parenthèse.
Ouais, c'est ça, du début. Ouais.
Moi, ça me rappelle plutôt Silent Hill en fait. C'est le point de départ du premier Silent Hill.
Oui, en plus court encore.
Parc d'attractions, c'était pas le premier.
Alors, c'est l'éditeur, c'est le développeur de Secret World qui est un MMO un petit peu spécial, un petit peu dans les contes de Cthulhu, etc. Enfin, il y avait plusieurs types d'univers. Hein. Et je crois que c'était une de leurs missions ou un de leurs univers qui était comme ça aussi dans un parc d'attractions.
Alors,
de nuit.
J'ai découvert ce matin, en fouillant un peu plus, que je comprenais pas vraiment l'intérêt du jeu. À la fin, c'est que ils l'ont sorti ce jeu pour Halloween. Ah oui. Et dans les personnages qu'on voit dans le jeu, ce sont des personnages qui apparaissent dans Secret World.
Ah d'accord.
Donc en fait, je le verrais plus comme un, alors pas un DLC, pas un ajout, mais un petit jeu qu'ils ont
c'est
pondu.
Un petit spin-off de l'univers
voilà,
Secret World.
Voilà, mais qui est très court. Hein. Le jeu, il se finit en 1h30. Hein.
Ah ouais, dis donc, c'est court.
Mais 9 euros. Ah oui.
9 euros, 1h30.
Alors après, ça fait beaucoup. Hein,
en termes d'ambiance, moi j'ai réussi à me faire peur.
Est-ce que c'est du jumpscare ou est-ce que c'est de l'ambiance
C'est de l'ambiance. Il y a un peu de jumpscare. C'est essayer de comprendre où est notre enfant. Moi, avec une fin que voilà, qui est une fin.
Petit cliffhanger.
Il vire un peu dans le gore ou pas du tout?
Il y a un peu de sang. Un peu de sang, oui.
C'est surtout psychologique.
C'est
en fait.
Psychologique. Ah bon, parce qu'on se rend compte que notre personnage, en fait, parle un peu toute seule. Elle raconte un peu son passé. Il y a beaucoup de textes à écouter. Ouais. Donc, c'est vraiment. On vit la scène, en fait. On vit le jeu. Plutôt que d'essayer de chercher. Il n'y a pas vraiment de fouilles. On tombe sur des documents. Il y a très peu. C'est très linéaire, en fait. On suit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les attractions. On peut monter dans les attractions.
Oui.
Donc, c'est plutôt sympathique.
Tout seul, ça doit faire peur. Quoi. Oui.
Bah, surtout que pendant les attractions, il se passe des choses. Voilà, on nous met dans un contexte.
C'est marrant,
où,
tu peux refaire les attractions alors que le parc est fermé et que tu cherches ton gosse.
Oui. T'as même des manettes. Hein, t'arrives devant l'attraction et tu peux accélérer l'attraction ou l'arrêter. Tu peux l'envoyer à fond. Enfin, c'est
le parc d'attractions.
C'est une expérience.
Ce parc est grand ou alors c'est
madame qui y a joué. Alors, moi, on joue pas du tout de la même façon. Moi, j'aurais été plus.
Madame, selon Claire, c'est ta femme.
Oui.
Madame. Ça fait un peu. Monsieur le baron, quoi.
Madame Claude. Bonjour.
Et du coup,
c'est Régine.
Elle explorait pas trop. Elle suivait le fil linéaire. Bon, au bout d'une heure, elle se faisait chier. Parce qu'elle trouvait qu'on tournait un peu en rond, elle savait pas vraiment ce qu'il fallait faire. Moi qui étais plus dans l'ambiance à essayer de vivre un peu le moment et de me faire peur, j'étais un peu plus dedans. Ouais. Mais voilà, 1h30, c'est court.
Ouais.
Comment tu l'as trouvé ce jeu-là?
Je suis tombé sur un article avec un petit teaser qui était bien pensé, qui était bien fourni, qui te donnait envie de te faire peur pour une fois. Et juste voilà, je trouve le prix un peu cher.
Donc on attend qu'il baisse un petit peu de prix et on pourra se faire peur. Bof, t'as pas l'air d'être transcendé.
Je me suis bien. En fait, le fait que ça se finisse aussi vite,
ça t'a coupé,
Ouais, 1h30, c'est dur quoi. Même pour 2 euros.
Tu l'estimerais à combien la valeur du jeu?
1 euro symbolique.
6 euros.
Ils auraient pu en faire cadeau déjà à tous les propriétaires de Secret World.
Ouais, moi je suis d'accord avec toi, le truc du spin-off, ouais.
Parce qu'au moins ils connaissent les personnages, on parle du chipmunk, enfin il y a un chipmunk dans Secret World, chipmunk c'est l'espèce d'écureuil, ou le boogeyman qui apparaît dans Secret World, voilà, on a cet univers un peu. Des cauchemars des enfants.
Pesant, ouais.
Et j'aurais mis gratuit pour Secret World et peut-être les 2-3 euros. 3-4.
Visuellement,
il n'est pas. En fait, il y a des petits défauts graphiques.
Tu l'as trouvé bien. C'est juste une question de durée de vie.
Oui, voilà, c'est ça.
Ça aurait fait 5 ou 6 heures de jeu, t'aurais peut-être dit ah bon, ça les vaut peut-être.
J'aurais fait 3 heures de jeu, ça m'aurait suffi déjà.
C'est toi, gros, qui avait fait un survival horror cette année en forêt et tout ça là, non?
Oui.
C'était comment? Ça s'appelait comment? The Forest, non, justement?
Non.
C'est pas ça?
Non. Non, c'est pas The Forest.
Dans la neige, là. Bon.
Ouais,
dans
avec les loups. Avec les...
Mais je pense que le jeu d'Alex est un peu moins dans le côté horreur, survival horreur.
C'était vraiment survival.
Mais il y a plus de choses à faire.
D'accord.
Alors que pour le coup, celui-là.
Plus linéaire, le terme. C'est basilisé.
Oui, voilà.
Balisé.
Ouais. Et en réalité virtuelle, tu penses que ça pourrait.
Ça peut être bien, par contre.
Mais c'est pas prévu.
Non.
Ça a pas l'air d'être prévu.
Non, non. Bon, de toute façon, la réalité virtuelle, pour l'instant, les jeux qui vont sortir,
oui,
on ne sait pas.
Donc 10€, 1h30 de jeu,
oui,
un peu
oui,
court.
C'est dommage.
Jeu à la troisième personne.
Mais intéressant. Après, voilà, c'est pour ceux qui peut avoir peur facilement.
Ceux qui veulent
ils disent bien, en plus, au début du jeu, le petit truc sympa, c'est qu'on te dit bien de jouer avec un casque sur les oreilles et dans le noir. Parce que ça te rajoute vraiment un peu d'intensité.
Bah, tous les survival, on devrait faire ça.
Si tu joues à 14h au milieu de 10 personnes, ça sert à rien. Voilà.
C'est logique.
Ok, bon. On passe au dernier jeu de ce mois-ci. Seb, tu vas nous parler de
Life is Strange de Dontnod. Donc, c'est édité par Square Enix et c'est en 5 épisodes. Il y a eu le premier épisode qui a démarré le 30 janvier 2015.
Je crois que Patou nous en avait parlé.
Oui, il nous avait parlé
à l'époque.
Plutôt en bien.
C'était très prometteur.
C'était le premier que tu nous avais parlé.
Oui,
le premier, voilà.
On arrive au cinquième. La boucle est bouclée.
Donc, en fait, on n'en a pas parlé pendant quelques mois. Et puis maintenant, comme les 5 épisodes sont sortis, donc on peut avoir.
On va pouvoir y jouer.
Avoir aussi un environnement. Une totalité du jeu pour savoir si vraiment il vaut le coup ou s'il faut le mettre de côté. Donc moi j'ai pris le Season Pass, j'ai même pas eu la possibilité d'attendre le dernier moment, donc j'ai fait ça à partir du 3ème, j'ai pris tous les épisodes. Et l'histoire, pour bien cadrer en fait tout ça, l'histoire c'est on est dans la peau de Max, c'est Maxine Caulfield, c'est une étudiante en fait en photographie à l'académie Blackwell, c'est une petite ville à l'intérieur, une ville reculée des États-Unis dans l'Oregon. Et on va vivre en fait sa vie. Elle vient juste de démarrer, c'est le mois de septembre, elle démarre en fait sa vie d'étudiante en photographie. Et on démarre. La seule chose en fait qui on rentre dans l'ambiance tout de suite, c'est qu'au début, alors je vous dis les 5 premières minutes, c'est
de l'épisode 5 ou du premier
tout en entier.
Parce que comme on en avait parlé du premier,
vous voulez que
Patoon, du coup,
je vais pas, non, je peux pas
vite sur la résumé de l'histoire.
Oui, parce que je parle pas de la fin, je vais pas parler de la fin parce que c'est chronologique, c'est en
cascade. Non, mais savoir justement si les 5
épisodes.
C'est
dommage, il y a beaucoup de choses à dire sur la fin.
Oui, alors on va le faire, je vais le dire aux auditeurs, on va le faire aussi à deux parce que Patoon aussi a fait le jeu, donc on est à plusieurs. Donc tout ça pour dire, en fait, il y a plusieurs histoires dans l'histoire. C'est qu'en fait, on a aussi un ouragan qui arrive dans la ville. Donc on sait que dans quelques temps, il va se passer quelque chose. On a quelqu'un qui va se faire tuer dès le début du jeu. Donc que va-t-il arriver à cette personne-là? Et on a l'histoire proprement dite de Max Caulfield, cette étudiante en photographie. Pour vous dire, alors, c'est un jeu narratif. Alors tout de suite, il y a une partie du public qui va partir, mais c'est très très bien écrit. On va avoir ce duo Max Caulfield et Chloé, qui est sa copine qu'elle va retrouver dès le début de la partie. Et ça sera tout le duo, toutes les péripéties sur une semaine de ce duo de choc. Hein. Donc duo de copines un petit peu atypiques, une introvertie et l'autre extravertie. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que c'est un jeu narratif.
C'est développé en France.
Que c'est c'est Dontnod, donc c'est ceux qui ont fait Remember Me.
Donc c'est à Lyon, c'est ça? Ils sont à Lyon, je crois.
Ils sont à Paris.
Ils sont dans le 20e arrondissement.
Exactement, ils sont sur Paris.
Quelle rue?
Je crois que c'était à Lyon.
Ça, je peux pas.
Rue
d'Aubervilliers.
Oh bah voilà, là, on joue dans le détail. Là, on joue dans le détail. Allez. Donc pour faire,
si je me trompe pas.
Donc si on veut des rencarts, si on veut des
oui, si on peut les inviter
infos,
un jour,
on va dans le café.
Voilà, on va les faire venir. On va les faire venir, c'est sûr. Donc évidemment, au niveau de l'interaction, du gameplay, c'est restreint, un petit peu restreint, mais au niveau de l'histoire et de l'envie de découvrir ce jeu, eh ben c'est du 100%. On a envie de savoir ce qui va se passer. Et donc pour moi, pour arriver à, ce cinquième épisode. Ouais. C'est très bien et c'est à faire. C'est un jeu narratif. Donc, si on est adepte du jeu narratif, eh ben,
allez,
on
est pour. Est-ce que c'est mieux que Walking Dead?
Oh bah, oh, la question. Voilà, à chaque fois, on me rappelle.
Il m'a piqué ma question.
Ah bah voilà.
On est très 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 loin du niveau de Walking Dead.
Alors ça, c'est
pour la vie. En pire.
C'est pour la vie de Patoun.
Non mais c'est vrai. En gros,
c'est vachement moins bien.
La question, je vais la
c'est l'univers en fait qui dit.
La synthétiser un peu. C'est quoi en fait l'apport de par rapport à ce que fait Telltale en ce moment? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce qu'ils vont plus loin?
C'est à peu près pareil. Vas-y, Patoun.
C'est surtout un autre type d'univers.
Voilà, c'est ça, c'est un monde. Vraiment, c'est un monde différent.
Il se rapproche plus des séries américaines pour teenagers.
Ouais, mais ça, c'est juste le look.
Oui, mais ça, c'est
fait.
Pas grave, ça.
Est-ce que non, ça aurait même, pu. Est-ce que le jeu, si je le prends, est-ce qu'il aurait pu être développé par Telltale?
Et du coup, c'est un
peu. Est-ce qu'il y a quand même des spécificités dans la façon dont ça a été intégré au gameplay?
C'est moi j'aurais vu les deux. Si c'est vrai, Telltale aurait pu faire
un jeu. Il y a la feature du remontage de temps qui change.
Voilà, oui, exactement.
Graphiquement, c'est pas un peu plus joli que Telltale?
Non, moi je trouve que c'est à peu près pareil.
Le moteur est un peu plus peaufiné, mais après.
Moi j'avais entendu que c'était mieux. En fait,
au niveau du graphisme, aussi.
Moi j'avais entendu dire qu'ils avaient été plus loin que Telltale dans l'exploration, dans la façon de gérer la narration. Et moi je ne sais pas.
Et la feature de remontage de temps, j'ai entendu que du bien dessus.
Alors, on en fait. Alors,
ça, c'est pas une hérédité de Remember Me.
Oui, exact, parce que je l'ai fait aussi. Donc, oui, ça a été repris.
Remember Me, c'est pas tout à fait pareil.
Oui, c'est un jeu d'action, mais au niveau du remontage du temps.
C'est jeu, c'est plutôt. C'est du traficage de souvenirs, mais qui passe par une feature qui vaut un peu à ça.
Oui, oui, si ça t'est repris.
En tout cas, c'est un peu le succès français de l'année. Hein, parce
non, l'histoire.
À l'international, c'est un jeu qui cartonne. Hein.
Non, parce qu'on est pris par l'histoire. Ça aurait pu être, au niveau interaction, plus bas, encore plus basique.
Oui, alors que je sais pas, en fait.
Plus basique, c'est que cette histoire, en fait, dès le début, dès les 5 premières minutes, on a envie de savoir la fin.
C'est qu'il
va se passer. Oui, voilà. Il va se passer un événement extrêmement important dès les 5 premières minutes. Mmh. Et tout va dérouler sur cette histoire.
Excuse-moi, l'événement que tu veux pas citer, on est bien d'accord, c'est celui qui se passe dans les toilettes que tout le monde a vu 2000 fois.
Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Oui, c'est vrai.
Ben, on peut en parler. Dire,
oui, c'est vrai. Il y a un trailer. C'est vrai. Il y a un trailer. On a quelqu'un qui se fait tuer dès le début.
Tu peux dire qui, hein?
C'est Chloé, c'est celle qui va devenir Chloé Price, qui va devenir sa coéquipière, une amie à elle, parce que elle a fait ses études dans une plus loin à Seattle, donc des kilomètres et des kilomètres de sa ville natale. Elle revient dans cette ville d'Oregon, et elle redécouvre, en fait, elle lui a pas parlé pendant des années. Elle retrouve sa copine à ce moment-là. Elle se fait tuer dès les 5 premières minutes, cette Chloé, et elle remonte dans le temps. On utilise.
Elle découvre son pouvoir.
Exactement. Elle a pas envie qu'elle meure, et d'un seul coup, elle utilise ce pouvoir. Et ça démarre. L'histoire démarre à partir de là.
C'est un studio qui commence à se spécialiser dans la narration et les
histoires. Non, pas spécialement.
À raconter.
C'est le premier jeu qui sort de ce style-là. Donc, j'aimerais revenir sur la qualité d'écriture que tu vantes. Ouais. Simplement parce que sur le premier épisode, l'écriture est pas mal, est correcte. Il y a quelques clichés, mais ça passe. Mais pour le reste, surtout pour le final. Je suis pas d'accord avec toi. En fait, les clichés, ça reste des clichés. Ils font rien avec. Je veux dire, le duo, même le duo principal, la petite fille, l'héroïne timide et son sidekick
extraverti,
c'est un truc qu'on a déjà vu des milliers de fois.
Oui, mais ça, on peut avoir les mêmes histoires, mais faites différemment et avoir envie de suivre.
Essayer d'amener d'autres choses. Et surtout, c'est encore, tu vois, c'est même pas grave. Moi, ce qui m'a vraiment le plus
déçu. Énervé.
Dessus, limite énervé.
C'est quoi?
Et spécialement dans le dernier épisode, c'est que dans les dialogues, on a des réactions qui semblent pas naturelles, qui semblent forcées par moments.
Et c'est quoi? C'est le jeu des acteurs qui était pas super ou c'est.
Moi, tu penses juste à ce niveau-là, je pense que c'est les dialogues.
Les dialogues n'étaient pas
à
très
la base, qui n'étaient pas.
Mais je crois que tu en avais parlé peut-être
surtout,
dans le premier aussi.
Et c'était surtout sur cet épisode-là, parce que. Ils veulent mettre de l'émotion, ils veulent nous tirer la larme. Et ils veulent tellement le faire et qu'ils forcent le trait, mais fois mille.
Mais c'est un jeu pour teenager, justement?
Non, pas du tout.
Pour adultes.
Non.
Pour moi, je le classerais dans les jeux pour teenager.
Ouais, c'est ça le truc.
Pour moi, c'est ça.
Et donc, en fait, ça passerait beaucoup plus facilement pour un.
Ouais, mais on a déjà.
Vu, qui a moins de 20 ans que
on a déjà
qui a
vu des productions pour teenager bien meilleures.
Moi, ce qu'il faut pas.
Telltale, à la base. ça peut être vu comme des productions pour teenagers aussi, à part peut-être Walking Dead, parce que voilà, c'est quand même assez violent. Mm-hmm.
Moi, c'est vrai que ce qui m'étonnait, c'était, vous parliez de clichés tout à l'heure, c'est plutôt les codes en fait qui sont utilisés. Ouais. Il me semblait que sur Walking Dead, on avait quelque chose d'un peu mieux écrit, d'un peu
Walking
plus contemporain.
Walking Dead, c'est mieux.
Vous parlez de la saison 1 ou la saison 2
La saison 2.
Moi, je parle la saison 2.
D'ailleurs, peu importe, parce que c'est un petit peu vain. Je cherche pas du tout à les opposer. C'est juste que je me dis, quand on arrive à obtenir ce genre de résultat qui est très très qualitatif sur de la narration interactive, moi j'en ai un petit peu marre de voir des univers en fait qui se reposent un peu trop sur des choses qu'on connaît déjà. C'est-à-dire quand tu regardes le cinéma par exemple, je vais synthétiser mon propos. Pourquoi on est toujours aux États-Unis? Pourquoi on est toujours en train de se rabattre sur un truc comme ça? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas à Ivry-sur-Seine en train de parler de teenagers qui sont à Ivry-sur-Seine et qui peuvent peut-être il peut se passer quelque
parce
chose
parce que ça se vend moins. Ouais, peut-être.
Non mais
c'est vrai.
Voilà.
C'est une histoire de
parce que donc ça se vend moins.
Et oui.
Et du coup pour moi le propos d'auteur en fait il est amenuisé sous prétexte que le genre en fait n'est pas encore suffisamment développé. Moi j'aimerais bien voir la même chose mais comme avec Persona de quelque chose de plus japonais ou quelque chose qui soit peut-être plus Word ou quelque chose en Afrique, je sais pas. Ça me gave un peu de voir des trucs que j'ai déjà dans d'autres médias.
Non mais alors vas-y Patoune, moi je vais dire une chose après.
Bon, je suis globalement d'accord avec
juste je termine mais... par exemple Beyond Two Souls, c'était ça. D'accord. C'était du fantastique dans un univers teenager quoi. Voilà.
Ouais.
Et c'est un exemple parmi 100 000 autres.
Mais il faut pas voir tout en noir. C'est que cette histoire-là.
Non, c'est pas noir. C'est une limite.
J'ai hâte
de voir d'autres trucs qui vont venir grâce au succès de celui-là.
Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est chiant. C'est des univers qu'on connaît déjà. Après, ça n'empêche pas d'apporter quelque chose et de faire une œuvre de qualité. Tu vois ce que je veux dire?
Non, mais je critique pas en fait celui-là. Hein, je suis très content. Hein. Je disais juste, j'aimerais bien que ça soit
utile. Mais moi,
je
veux te retrouver en fait
à d'autres genres, peut-être même la Don't Nod, hein, peut-être, mais d'essayer d'avoir un propos qui soit un petit peu moins teenager en fait, tout simplement.
Mais c'est
un petit peu moins cliché.
Teenager. C'est pas totalement teenager non plus. Faut pas non plus dire que c'est que il y a des histoires, il y a des choses qui se passent en fait.
Je fais bien le mec qui critique alors qu'il n'est pas joué. Hein.
Ouais.
Quand même.
Ouais, non, par rapport.
Il faut replacer le truc dans son contexte.
Ouais, par rapport à l'histoire, c'est pas. Pas trop teenager. C'est évidemment que c'est une fille qui vient.
Teenager.
Oui, mais il y a plein de faits qui vont se produire durant les 5 épisodes qui font pas référence obligatoirement sur le teenager. Ça va faire référence sur la vie de famille, sur plein d'autres choses, sur la mort. Oui, évidemment que ça se passe. La vie quotidienne se passe entre teenager et entre les parents. Mais il faut pas voir ça comme le petit film bateau revu 10 fois. C'est qu'il y a des choses qui vont se passer, qui vont nous faire réfléchir et qui vont nous tirer quelque chose de cette histoire.
Ça renvoie au jeu dont je parlais avant. Bien sûr, moi c'est une forme de cri du cœur, mais si les gens sont pas encore prêts pour ça, je comprends tout à fait que Don't Note se rapatrie sur des codes. Hein. Là, tu parles du dit c'est teenager, mais je sais pas, quand tu regardes Kids de Larry Clark, ce sont que des teenagers et le propos est super adulte. Donc c'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire une expérience interactive, peu importe si on dit si elle est narrative ou ludique ou j'en sais rien, et qui est un propos adulte et qui se vende. Parce que qu'elles soient intéressantes, ça on y est déjà. Il y a déjà des jeux qui sortent aujourd'hui qui proposent ce genre de trucs qui sont intéressants. Le fait est qu'ils ne se vendent pas pour l'instant.
Définis expérience narrative, parce que pour moi The Last of Us c'est une expérience narrative par exemple.
Oui, il y a quand même du multi, il y a quand même du shoot, il y a quand même de l'exploration. J'ai pas besoin d'aller jusqu'à Last of Us pour être impliqué. Pour être impliqué.
C'est clairement, et pour moi The Last of Us c'est une des meilleures expériences narratives qui existent.
Sur
Life,
merci,
Life,
sur Life is Strange. Le but c'est pas du tout de les défoncer, bien au contraire, c'est de se dire que vraiment en ce moment on sent qu'il y a beaucoup de réflexions de potentiel et de futur au jeu d'aventure, et que clairement Life is Strange a posé son jalon là quoi.
Oui,
ça
mais
va
parce
vraiment
que
être utile.
C'est très bien parce qu'en fait elle parle en fait, on entend tout ce qu'elle fait, il y a une sorte dialogues. Moi ça me dérange pas. Et je peux même dire encore plus, on voit tout ce qui se passe dans sa tête. Il y a une histoire d'introspection en fait dans sa vie, de savoir Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas bien dans sa peau. Et on voit tout ce qui va se passer durant tous ces épisodes. Donc elle va se remettre en cause, elle va savoir qu'est-ce que je fais de bien. Et ça donne envie. On se sent même, étant, nous on est adultes maintenant, mais c'est un bon moyen de se poser des questions sur la vie avec ses parents, sa vie entre ados, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour avoir les réticences ou la méchanceté des autres. Donc il y a, on a même des séquences où on se voit à l'intérieur d'elle. Elle fait des cauchemars, des choses comme ça. On a des séquences de mal-être. Et moi en tout cas, ça me touche. Alors il y a peut-être des gens qui vont faire c'est pas trop terre à terre, on part dans la philosophie de bas étage, mais moi je trouve que c'est un bon moyen de nous attirer. Alors il faut vraiment être il faut que cette histoire là aussi nous touche, parce qu'on peut s'arrêter au bout de 10 minutes du premier épisode, se dire non c'est pas pour moi, mais
donc toi tu conseillerais plutôt aux gens d'essayer le premier épisode,
en plus vous pouvez le prendre,
qu'il est gratuit maintenant.
Je crois qu'on peut l'acheter,
ça serait bien, c'était Walking Dead qui avait fait ça, hein.
C'est peut-être possible.
Sais pas s'ils n'ont pas fait ça, Square Enix aussi, ils l'ont mis gratuit.
Voilà, c'est peut-être possible. Mais pour une vingtaine d'euros, vous allez avoir. Alors, il faut faire le. Moi, je suis d'accord là sur ce point avec Patoun. Faites le premier épisode. Voyez si vous êtes attiré par cette histoire-là. Si vous êtes attiré, le reste va découler très facilement. Et vous allez vouloir le faire jusqu'au bout pour savoir. Alors, là où Patoun aussi il a raison, c'est sur le dernier épisode, on a une séquence sur les deux heures. Sur les deux heures ou trois heures, parce qu'ils sont longs en fait, on nous vole pas, hein, sur l'histoire. Sur trois heures du dernier épisode, on a une petite demi-heure qui sont un petit peu longues, parce qu'en fait on revit on revit en fait la vie des quatre premiers épisodes. Voilà, oui.
Non, je voulais juste savoir, est-ce que quelqu'un comme Gros il a des chances de jouer un jour à ce genre de jeu, est-ce que c'est pas trop compliqué pour lui?
Au niveau de l'interface. Non, tout le monde peut adhérer à ce genre de jeu.
Il n'y a pas assez d'icônes à l'écran.
Et je parle de jeu narratif.
Le prix, c'est combien ?
20 euros. Pour les 5.
Je crois que c'est 20 ou 25, un truc comme ça.
Non, 20. 20, oui, parce qu'on gagne un épisode à chaque fois.
Juste sans spoiler rien du tout. Ça sent la saison 2 ?
Alors, non.
Juste sans. Mériterait pas.
Clairement pas. Vu ce qu'ils nous ont fait à ce final-là.
Je suis d'accord.
Je parlais pas par rapport à la manière dont ça se finit.
Oui, j'essaie.
Donc, ils ont du boulot. De toute façon, ils ont un vampire à nous pendre.
En plus.
Tous dessus.
Il y a de quoi faire.
Mais très bon clin d'œil et vraiment à faire.
Ok. Voilà. Merci, Seb.
Pas de problème.
Merci.
On passe, du coup, on revient sur notre rubrique battle, à notre deuxième battle du jour. Alors, pour le deuxième battle du jour...
Oh non, pas encore moi, pitié.
Non, pas toi. Ça sera GP et Gros. Alors...
Tu veux dire que Gros va devoir parler ?
Oui. Attends. Bras gauche ou bras droit ? C'est pour ça que j'ai pris 40 secondes. Hein. C'est que je sais que j'ai pas trop le fatigué. Bon. Sur deux jeux que vous avez joués tous les deux, même moi, à l'occasion en fait de la sortie de Evolve Ultimate Edition. On en a parlé tout à l'heure, donc c'est
quel
pour ça.
Quel grand jeu ! Je me casse, je vais l'acheter.
Ainsi que, non mais tu l'as déjà, mais l'Ultimate
Edition. J'ai pas l'Ultimate Edition.
Ah, oui. Et du nouveau monstre qui s'appelle la Gorgone, qui sort aussi. Bon, bien sûr, c'est du DLC payant. Enfin,
moi, je connais la Dordogne, mais
non, la Gorgone.
Moi, je connais la Sologne, mais
Alex va devoir nous dire pourquoi Evolve est le meilleur jeu, enfin, c'est un très très bon jeu, et surtout qui va perdurer, qui va s'en sortir comparé à Titanfall qui a sombré dans les méandres.
En attendant Titanfall 2.
Oui, voilà. Oui, bah, ça va faire pareil, ça va durer 6 mois.
Bref. Non, sur Wii U, ça sera.
Et GP va devoir nous dire pourquoi c'est un échec total.
Oh, un travail de composition.
Voilà. Je pense que pour bien s'amuser, il faut commencer par Gros. T'es prêt, Gros ?
Ouais.
T'es dégâté aujourd'hui.
Alors, Evolve ? C'est le jeu qu'il faut avoir. Là, il n'y a pas de doute là-dessus.
Ce jeu.
Alors déjà, vous avez une communauté de joueurs énorme. Vous pouvez trouver des parties en moins de 4 secondes. Enfin, le jeu vous cherche pour trouver une partie tellement il y a du monde.
N'étonne pas.
Bref. Au-delà de ça, après, franchement, moi, jouer avec des gens qui font tout et n'importe quoi sauf ce qu'il faut faire dans le jeu, j'adore. Il n'y a pas de problème. Donc, restons groupés et allons à l'autre bout de la map. Ça, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup. Ça, c'est un peu mon kiff. Je fais ça tous les week-ends. J'adore courir après des monstres. Et surtout,
pendant des heures.
Surtout, Bah quand on peut pas le rattraper. Parce que là ça dure et j'adore.
Bravo, ah, j'adore.
Tu trolles, mais c'est
peu importe ce que va dire GP, j'ai choisi mon vainqueur.
T'as reçu un SMS d'Evolve, là, il veut savoir si tu veux jouer.
GP, c'est à toi.
Bah en effet, t'as dit tous les atouts du jeu, quoi, donc je suis un peu bloqué, quoi.
Je comprends.
Je peux revenir sur. D'ailleurs, je vais reprendre les mêmes, je les détaillais, quoi. Donc, par cette fabuleuse communauté de joueurs, je crois qu'ils sont 300 environ, à peu près, dont 200 russes. Voilà. Ensuite, en effet, c'est un jeu que tu peux arrêter pendant quelques mois et reprendre avec des pick-up. Déjà, tu te fais exploser, même si t'es en team. S'il y a des pick-up, tu te fais exploser encore plus. Et le seul qui sait jouer, généralement, c'est le monstre. Donc, lui, par contre, il te cherche pas pendant un quart d'heure, et puis après, il passe niveau 3 et puis il t'explose. Et puis après, tu redésinstalles le jeu encore une fois. Voilà. Après, c'est quand même un jeu, c'est une grosse déception parce que je pense qu'il y a un mauvais équilibre. On a 4 personnages, on est 4 contre 1 et les 4 rôles sont très orientés, très définis. Et malheureusement, ça oblige à jouer avec des gens qu'on connaît, avec.
Oh, ça donne envie tout ça.
Voilà.
Moi, je sais pas vous, mais moi, je donne mon point à gros. Parce que c'était dur.
Moi aussi.
C'était dur de
défendre.
Ouais, ouais.
Parce qu'il y a mis du cœur.
Oui, voilà, on est passionné.
Dans l'adversité, il y était.
Mais je pense qu'il faudrait le relancer
le
pour
troll,
voir
quand
ce
même,
que
mais
c'est
bon.
Devenu.
Alors, moi aujourd'hui, j'ai dit plein de conneries, donc je vais y encore aller. On est d'accord que ça a été développé par...
Turtle Rock, ouais.
Et ça doit pas être simple chez eux, là, en ce moment, quand même.
Ah bah,
ils sont quand même bien viandés.
Ils sont déficitaires.
La tortue cool.
Depuis qu'ils ont viré tout le monde, ils cherchent du monde.
Voilà. Eux aussi, ils cherchent du monde pour jouer. Ok, merci. On passe tout de suite à nos What Else.
What Else. What Else, oui.
Il faudrait qu'on travaille la voix de Georges Clooney.
On lui demande de faire la voix.
Salut.
Please.
Jean.
Vas-y, Patoun.
Alors, pour les What Else, on en a 3. On a Patoun, Seb et Gros, je crois. Red aussi. Bah, voilà. Tout le monde a un What Else, en fait. Patoun, vas-y, tu nous fais un petit What Else. Je crois que tu es tout petit.
Oui, petit What Else rapide que j'aimerais dédicacer à Maya, ma polonaise préférée, parce que c'est elle qui m'a rappelé ce petit chef-d'œuvre à ma mémoire, qui s'appelle La vie aquatique, réalisé par Wes Anderson.
C'est bon ça.
Moi j'étais parti sur Maya Labbé.
C'est du bon. Owen Wilson, Kate Blanchett. Mm-hmm. C'est, pour faire simple, c'est un hommage de près de 2 heures à l'équipe de Jacques-Yves Cousteau, qui part.
Ah bon?
Part dans la fantasy, en fait, en racontant une histoire qui se rapproche plus ou moins de Moby Dick, une traque sur un
requin. Que j'ai revu ce week-end d'ailleurs.
Oui, moi aussi, je l'ai regardé hier soir.
On va en reparler
comme
tout à l'heure.
Comme par hasard. Vous étiez ensemble?
Si tu savais.
Je veux pas savoir votre vie.
La version de 56, t'as regardé?
Non, la version de 2005, celle de Wes Anderson.
Ah, pardon. Alors,
en couleur.
Ouais, non, mais tu parlais de Moby Dick.
Non, attends, on parle de Moby Dick ou de La vie aquatique?
La vie aquatique.
Bon, c'est un peu pareil.
Voilà, donc
mais Moby Dick, il est passé sur Canal Plus ce week-end, je crois, ouais, en effet.
Donc, vas-y, continue. La vie aquatique.
On est en forme.
La vie aquatique, c'est.
Voilà.
C'est mouillé.
À la Seb.
Voilà,
c'est parti.
Non, c'est une petite pépite à regarder, bourrée d'humour. Willem Dafoe est excellent dedans, un compagnon de voyage déjanté. Des scènes d'action. Toujours dans le loufoque. Un peu. Il y a toujours un petit détail, loufoque quelque part dans un coin quand on regarde bien. Et puis
tu le vends bien.
Le mieux, c'est d'aller voir.
Okay.
On va le regarder.
La vie aquatique.
Ouais, moi, j'ai toujours peur avec les films de Wes Anderson quand même.
Ah non, mais c'est
moi, j'ai toujours peur avec les films
T'as
de Patoun. Moi,
la vache. Le seul que j'ai à peu près supporté, c'était Budapest Hotel, mais j'ai eu Darjeeling United. S'il était
un grand Budapest,
pas mal quand même.
T'as pas vu Fantastic Mr. Fox?
Si. Alors celui-là, j'ai détesté.
C'est possible.
Il y a alors
restons sur la vie aquatique.
C'est thématique sur la paternité, etc. Mais franchement, je me suis fait chier.
Bon, on va changer.
Si vous n'aimez pas Wes Anderson, ne regardez pas ses films. Est-ce que ça changera?
Sébastopol.
Alors moi, c'était évidemment, je vais faire le geek à 100%, c'est Retour vers le futur, le 30e anniversaire. La réédition en Blu-ray de cette trilogie. Et en plus, c'était pour faire c'est pour me faire mon geek. Et aussi le jeu de Telltales qui était juste avant les Walking Dead, ils avaient fait le jeu Retour vers le futur, qui est bon, allez, on va dire un peu moyen, parce que bon, avec tous les problèmes difficiles.
On n'est pas censé parler autre chose que du jeu vidéo dans les Walking Dead.
Oui, mais j'avais envie de le dire.
Oui.
J'avais parlé du film qui était très bien fait. Ah oui, alors le jeu vidéo et aussi je suis tombé dessus ce week-end sur Netflix, le Back in Time, un documentaire d'une heure et demie sur tout l'environnement de Retour vers le futur. Donc ceux qui ont Netflix, regardez-le, c'est super intéressant.
C'est quoi le concept du docu? C'est de revisiter les décors,
tout confondu, c'est-à-dire la voiture, les fans, réalisateur, le Columbia, comment, qui a mis l'argent sur la production, comment
la
ça s'est
la production du projet.
C'est sur la production du film.
Oui, tout en fait, surtout la production du film, plus en fait la petite histoire de Michael J. Fox qui était pas pris en premier.
Il y avait
quelqu'un d'autre qui était là avant, je me rappelle plus très bien qui c'était. Un acteur connu, pas par moi.
Un battle sur est-ce que c'est bien d'avoir une suite à Retour vers le futur.
Ouais, bah alors pour le moment on l'aura pas parce que les droits sont aux producteurs, c'est pas les producteurs, c'est le scénariste,
réalisateur et le scénariste qui sont absolument contre.
Voilà, et tant qu'ils seront en vie, on n'aura pas la suite. Ouais. Donc le jour où il meurt, ça on le sait, il y en aura un quatrième, ça c'est clair.
Oh, le truc qui ferait le plus peur serait un reboot en fait.
Ils y ont pensé aussi.
Mais là, le film a commencé à être tourné avec un autre acteur et ça collait pas.
Oui, au bout de 5 semaines, c'est ça. Au bout de 5 semaines, ils ont dit stop, l'humour n'est pas là, on n'est pas pris par le jeu d'acteur.
Faites-nous un remake d'Autant emporte le vent, je sais pas, il y a tant de films à rebooter ou à remaker, laissez, touchez pas à ça.
Ou alors un inédit, un inédit de Retour vers le futur.
Soyez créatifs,
le docu sur Netflix, c'est gratuit.
Gratos,
d'accord.
Gratos,
si on a l'abonnement, bien sûr.
Oui, évidemment. 400 euros par mois.
On a eu les visiteurs quand même, c'est pas mal.
On signalera quand même qu'ils se sont gourés à l'époque du film, hein, parce qu'on a passé la date.
Oui, 26 octobre.
Le futur.
26 octobre.
Ils se sont quand même bien plantés sur ce qui allait devenir.
Ça se trouve, nous qui nous sommes plantés. Ça se trouve, le film avait raison.
On est dans un monde parallèle,
un monde alternatif. Quand même pour le jeu, parce qu'il est pas mal de voir un épisode inédit. C'est pas mal aussi. Voir un petit peu ce qui se passe dans la vie du Doc et de McFly.
Ils avaient fait une série animée aussi des années 90.
Oui, mais moi je l'ai pas vu en tout cas. Oui, c'est vrai.
Moi je l'ai regardé.
C'était ni fait ni à faire en fait.
Bon, voilà. Allez, what else suivant, Red?
Ouais, moi très vite je vais vous parler d'un petit manga qui s'appelle Rin. Ça s'appelle Eryen. C'est le nom d'une petite nana qui est dans le manga. Et en fait, c'est vraiment chouette parce que c'est un manga qui paye pas de mine comme ça. C'est l'auteur d'une autre série que j'aimais bien qui s'appelle Beck, qui a fait ça, et franchement je me suis jeté là-dedans sans aucun
accord perdu.
C'était sympathique et je voulais savoir ce que c'était, et en fait c'est une histoire qui parle d'un jeune mangaka. Donc voilà, on suit la vie d'un jeune adolescent qui rêve de devenir mangaka. Donc vraiment ça vole pas très haut, même si ça peut en intéresser quelques-uns. Et en fait, au fur et à mesure des volumes, l'histoire prend complètement corps, ça se densifie autour d'une histoire d'amour entre lui et son âme sœur, et d'une fille qui peut lire l'avenir. En fait, donc ça part un tout petit peu en sucette, et c'est fait c'est très très efficace. Moi, c'est en train de me choper complètement, et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que je l'attendais pas du tout. Donc c'est toujours très agréable d'être dans un livre qui paye pas de mine et qui est très humble et qui se révèle être très très bien fait, très très bien écrit. Et voilà, je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Là,
tu sais pas le nombre de tomes ou le...
Non, là c'est le tome 4 là qui est sorti chez Delcourt. Je pense qu'il y a au moins
sur des éditions Delcourt. Oui.
Voilà.
Vous pouvez lire sauf si vous voulez lire l'édition originale en japonais, ce que je vous conseille. Mais moi j'ai un petit peu de mal encore.
Moi aussi. Mais j'aimerais bien le japonais, ça serait sympa.
Effectivement, c'est là-bas.
Et je crois que j'ai payé un What Else.
Non, mais mon What Else, c'est peut-être celui de gros.
Allez, c'est parti. Tous les fans de Warhammer, Total War, Warhammer.
Warhammer encore ?
Dans 6 mois, oui. Alors c'est un double message. Donc si vous voulez voir les petites vidéos qui sont sorties de la part de l'éditeur concernant le jeu, ça a l'air vraiment fantastique. Enfin, par rapport à l'univers Warhammer, pour ceux qui le connaissent. Et après, c'est un petit message s'il y a des développeurs français
qui veulent lui envoyer le jeu gratos,
parlent français. moi, j'aimerais bien savoir pourquoi Warhammer part comme ça dans plein de petits projets à droite à gauche, et savoir s'il y en a d'autres derrière ou d'autres choses plus intéressantes.
Ça a toujours été le cas,
non? Non, ils relancent bien.
Pas vraiment, mais là, ils relancent beaucoup de choses différentes.
Mais il n'y a pas un gros jeu, un gros. Non, c'est que des petits projets.
Non, Total War, Warhammer, ça risque
d'être
un gros jeu. Ah
donc voilà, il y a ce qu'il faut derrière.
Et c'est vrai que depuis 10 ans, t'avais que la licence Blood Bowl, qui est un jeu de plateau.
Tu peux nous le redire, s'il te plaît ? Comment ça s'appelle ?
Blood Bowl.
Blood Bowl.
C'est du baseball américain version trash.
C'est du football américain.
Ce serait bien, avec des orques et des nains. Pour la licence Warhammer, c'est qu'ils fassent un long métrage, non ? ça ferait
c'est
quand
très
même
compliqué. Le public est très ciblé quand même.
Et mais même, pas mais un mauvais, aussi. Même un mauvais. Oui, histoire de dire que ça existe.
Déjà qu'ils vont nous faire le film de Warcraft alors. Déjà,
ouais, qui arrive, voilà. Qui arrive. C'est l'année prochaine, je crois.
Oui.
Voilà. Okay. Donc avis aux amateurs et aux éditeurs.
Merci à tous. Et bien on arrive à la fin de ce podcast des What the Duck. J'espère que ça vous a plu.
Ouais, super.
Ouais, tout en tout cas, nous, content.
Voilà, bon, on se dirige tranquillement vers, vers une grosse rentrée hein, quand même. Il y a pas mal de choses qui arrivent encore à tester.
Surtout, on va finaliser notre un an de podcast pour le prochain.
On n'y est pas. On n'y est pas.
On est dans un mois. On essaiera de trouver une surprise.
Hein, quelque chose à prévoir.
Bah, tu fais un gâteau.
On va improviser.
Champagne.
On va improviser.
Une émission en public à la campagne.
Oh, ce serait sympa.
Et on sera tous bourrés
avec des vaches.
Non, pas d'alcool.
De la vidéo, de la vidéo.
En tout cas, vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes Twitter, Facebook, le site What the Duck, les forums pour la plupart d'entre nous. N'hésitez pas à nous laisser des messages, vos commentaires.
Ça sera lu, Doctissimo.
Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas aussi à nous les poser. On les posera grâce au répondeur du What the Duck. J'espère que ça vous a plu. Un petit mot pour la fin. JP, je crois que c'est ta musique ce mois-ci.
Ouais, comme d'habitude. Pour conclure, on termine sur la musique, le thème principal de MGS2. Une musique très connue dans le jeu vidéo et qui s'est avérée être un plagiat.
Russe.
Un chant russe. Même Kojima lui-même était surpris. Puis quelques jours après, il a décidé de licencier son compositeur phare. Voilà, en tout cas, la musique est géniale.
En vrai, il a été licencié.
Oui,
ils ont juste décidé de se passer de la musique.
Le mec a été viré.
Je sais que la musique a été mise de côté.
Ils l'ont pendu. Et bon, on retrouve en tout cas à très vite.
Vous pouvez regarder sur internet, il va y avoir des vidéos qui montrent le plagiat.
On vous dit donc à très vite pour un prochain numéro des What the Duck et amusez-vous bien.
Salut,
au revoir.
On en revient.